Belle journée à vous, très bon réveil. Il est 6h57, je vous retrouve demain avec toute l'équipe du 5-7 et je vous laisse avec Mathieu Béliard pour le 7-9. Bonjour Mathieu.
Bonjour Sébastien, bonjour à toutes et à tous. Jeudi 17 décembre 2020, soyez les bienvenus sur Europe 1, vous écoutez Le Monde Changé. Trois femmes ce matin que je veux mettre en avant, trois témoignages de femmes très différents. Julie Gayet dans notre rendez-vous culture, la culture c'est essentiel. Europe 1 le revendique et ouvre son antenne aux artistes pour écouter leurs conseils de sortie quand c'est possible, de films, de séries, livres, disques. À 8h30, nous serons donc en ligne avec les comédiens Julie Gayet et Pascal Légitimus. À 7h40, un témoignage extrêmement fort dans le tête-à-tête Europe Matin. Rada Hatem, elle a fondé la Maison des Femmes à Saint-Denis, lutte contre les violences faites aux femmes, violences physiques et psychiques, accueil et accompagnement social ou même juridique, et ça marche. Il y avait besoin de cette maison à Saint-Denis, 13 000 consultations par an, un pic pendant le confinement. Rada Hatem veut aujourd'hui ouvrir de nouvelles maisons des femmes en France, à Marseille en particulier. Elle cherche des financements, ses besoins, sa démarche, ses réussites. Je suis très heureux de vous présenter Rada Hatem dans le tête-à-tête Europe Matin, tout à l'heure à 7h40. Et puis enfin à 8h15, une épidémiologiste indépendante qui n'a jamais peur de dire ce qu'elle pense. Catherine Hill, au micro de Sonia Mabrouk. Dès le mois de septembre, elle a alerté sur l'état de nos services de réanimation et sur le besoin d'un reconfinement à l'automne. Avec elle ce matin, la vaccination, les restrictions, l'isolement des malades. Cette étude qu'Europe 1 révèle aujourd'hui, c'est à la une. L'étude de l'Institut Pasteur sur les lieux de contamination, 25 000 patients, une étude massive. C'est à la maison qu'on se contamine le plus, auprès des proches, pas forcément dans les commerces. C'est à la une du journal à suivre. Et dans le journal de 8h, c'est lié, vous allez le comprendre.
Une petite bavette au Seigneur.
Ah, cette ambiance. Ambiance de restaurant. Ce n'est pas le passé, hein. Ce n'est pas l'avant-confinement, c'était hier soir. Des restaurants fermés, mais qui accueillent des habitués discrètement, par entrée dérobée, ça se fait. Deux reporters de la rédaction d'Europe 1 sont allés dîner incognito hier soir. C'est notre dossier dans le journal de 8h tout à l'heure. Voilà quelques éléments du programme. Laurent Cabrol est avec nous, c'est l'heure de la météo. Bonjour Laurent.
Bonjour Mathieu. Bah, la météo change et donc je vais vous en parler, hein, puisque nous sommes là pour ça. Et elle va changer tout au long de cette matinale, je pense. Elle a déjà changé depuis 5h. Nous avons une zone de pluie qui traverse la France, elle n'est pas très violente. Sur la Gironde, les Landes, le Limousin, le Berry, sur Paris, sur la Champagne-Ardenne, ce sont des petites pluies fines, des bruines, mais elles vont s'échapper, donc on peut espérer un temps sec dans les heures qui viennent, notamment sur l'île de France. La pluie va gagner très vite cette fois la Lorraine, l'Alsace, la Franche-Comté, le Mâconnais, l'Auvergne. Nous aurons des pluies cévenoles, donc violentes, et ça, j'y reviendrai parce que c'est important, c'est grave ce qui va se passer peut-être samedi et dimanche. Donc sur le Languedoc, le Delta du Rhône et la vallée du Rhône, les pluies seront cévenoles et elles seront méchantes. Et puis un soleil, du soleil, sur le Midi-Pyrénées, la vallée de la Loire, la Bretagne, la Normandie, la Picardie et le Nord. Et des températures de 11 à 15 degrés.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Bonjour Hélène Zélani.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, écoutez Le Monde Changer. Il est 7h.
C'est un crève-cœur pour moi, madame, de fermer les restaurants. C'est un crève-cœur, mais c'est nécessaire. Et l'étude du professeur Fontanet le confirmera.
Cette étude du professeur Fontanet, on l'attendait depuis des semaines. Europe 1 vous en révèle les conclusions. Ce matin, on sait désormais quels sont les principaux lieux de contamination et il n'y a pas que les restaurants. Les premiers vaccins arriveront d'ici la fin du mois. Olivier Véran, le ministre de la Santé, en profite pour rassurer les sceptiques. Rien ne se perd, tout se transforme. Dans ce journal, nous ouvrirons un dossier spécial économie circulaire. On achète, on revend, on recycle.
On leur propose cette nouvelle alternative de consommation qui permet de se faire plaisir avec la mode, mais de manière plus responsable, puisque leurs chaussures connaîtront une seconde vie.
La politique chez LR, on remet à plus tard la décision sur une éventuelle primaire. Xavier Bertrand se verrait bien en homme providentiel. Et puis, retour sur la fameuse polémique des propos racistes lors du match de foot du PSG contre les Turcs d'Istanbul. Les deux parties se sont parlé et apparemment se sont comprises.
Juste après ce journal, un bras de fer se joue entre le géant chinois et l'Australie. C'est un avertissement pour nous, l'éclairage éco de Nicolas Barré. 10 ans après, que reste-t-il du printemps arabe tunisien? Le regard international de Vincent Hervouette. L'édito sport de Virginie Fulpin avant de retrouver Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Qu'on attrape le plus souvent le Covid, question à laquelle doit répondre l'étude de l'Institut Pasteur menée par le professeur Fontanet. 25 000 personnes qui ont contracté le virus ont été interrogées.
Bonjour Victor Dolande.
Bonjour.
Ce matin, Europe 1 est en mesure de vous dévoiler les grandes lignes de cette étude qui nous éclaire avant tout sur les lieux de contamination.
Oui, et ce qu'il faut retenir, c'est à la maison qu'on se contamine le plus. Ça représente les deux tiers des contaminations et ça passe en général par le conjoint. Ensuite, à l'extérieur, c'est la famille élargie qui vous contamine, puis vos collègues de travail et enfin vos amis. Pourquoi ? Eh bien, on oublie de porter le masque, on se relâche, finit aussi la distanciation physique. Cette étude, menée auprès de 25 000 personnes, nous montre même quels sont les moments les plus à risque. C'est avant tout les repas qui jouent un rôle central dans les contaminations hors foyer, la proximité avec les enfants, mais aussi le retard à l'isolement. 94% des malades se sont isolés, mais ils l'ont fait trop tard, seulement 42% dès les premiers symptômes, ce qui veut dire que pendant les premiers jours de la maladie, vous avez le temps de contaminer beaucoup de monde. Enfin, d'autres comportements augmentent le risque d'attraper le coronavirus, comme le fait d'avoir été dans des bars, des restaurants et des salles de sport. En revanche, et c'est à souligner, fréquenter des commerces n'augmente pas ce risque, selon cette étude.
Voilà, merci beaucoup Victor Dolande. Les deux tiers des contaminations, c'est donc à la maison que ça se passe, et surtout pendant les repas. Enseignement intéressant à quelques jours de Noël.
Le vaccin anti-Covid, on ne l'aura pas à Noël, mais a priori avant le nouvel an, dès la dernière semaine de décembre. C'est ce que disait Jean Castex à l'Assemblée.
Oui, dès que l'Agence européenne du médicament donnera son feu vert pour le vaccin Pfizer-BioNTech. Hier, dans ce journal, nous évoquions les théories des anti-vax, de tous ceux qui ne font pas confiance au vaccin. Eh bien, Olivier Véran leur répond.
J'entends que le vaccin a été produit trop vite. Je ne sais pas ce que ça veut dire, trop vite. Où le traitement est évalué, il est éprouvé, il est efficace. Alors c'est une chance pour les malades. Ou il ne l'est pas, et on ne l'offre pas aux malades, et on attend et on cherche un autre traitement. Mais dès lors qu'on le donne, parce qu'il est efficace et qu'il a été évalué, ça reste une opportunité pour les malades. J'entends aussi, le vaccin ARN messager modifie le génome humain. Un ARN messager injecté ne modifie en aucun cas le génome humain, il est éliminé très vite et ne s'intègre pas au génome. J'entends aussi quelque chose qu'on entend dans d'autres campagnes de vaccination. Moi, vous savez, docteur, j'ai peur des adjuvants. Dans le vaccin qui va être proposé par le laboratoire BioNTech Pfizer, il n'y a pas d'adjuvant. Il n'y a pas besoin d'adjuvant parce qu'il est suffisamment efficace et immunogène.
Olivier Véran, ministre de la Santé, hier à l'Assemblée, justement, le réseau Twitter s'en prend aux fausses informations sur le vaccin. Les messages devront être effacés si les auteurs veulent être autorisés à tweeter à nouveau.
7h04 sur Europe 1. S'il y a bien une pratique qui nous montre que le monde change, qu'il est en train de changer, c'est ce qu'on appelle l'économie circulaire. L'idée étant de limiter notre consommation et surtout notre gaspillage.
Et oui, une tendance de fond qui s'accentue bien sûr avec cette crise sanitaire. Le marché de la seconde main explose. L'an dernier, déjà un Français sur trois avait acheté un produit d'occasion. Bonjour Élise Dangean.
Bonjour Hélène.
Alors aujourd'hui, c'est un marché qui pèse plus de 7 milliards d'euros dans notre pays et forcément, toutes les marques d'habillement veulent leur part du gâteau.
Et oui, ne serait-ce que cette semaine, deux géants du web se sont lancés, La Redoute et Cdiscount, mais c'est surtout dans la mode, vous l'avez dit, que l'envolée est impressionnante. Ce marché représente à lui seul 1 milliard d'euros et toutes les marques s'y mettent les unes après les autres. Je vous donne quelques noms, Aigle, Caporal, Promode, Kiabi, Jacadi, Bache, Zalando. Même la grande distribution s'est lancée. Auchan, par exemple, a installé des rayons de seconde main multimarques dans 40 de ses hypermarchés. La raison est simple, les clients sont de plus en plus soucieux de leur pouvoir d'achat, mais aussi des questions environnementales. Alors à chacun sa méthode, uniquement en ligne ou aussi en magasin, avec ou sans commission, en payant le vendeur en cash ou en bon d'achat avec un petit bonus. Chez Promode, par exemple, les deux options sont offertes, mais définitivement les clientes préfèrent le bon d'achat. Et pour le président Julien Paulet, ça crée un cercle vertueux.
Ça sera forcément rentable parce que nos clientes pourront vivre une expérience globale avec la marque. Comme d'habitude, acheter des produits chez nous, mais aussi les revendre, continuer à se faire plaisir. C'est forcément une équation gagnant-gagnant.
Et même le luxe s'y met puisque des marques comme Burberry et Gucci se sont lancées sur ce marché lucratif.
Certaines enseignes vont même plus loin. Élise, elle propose de retaper des produits usagés qui seront ensuite revendus.
Absolument, c'est le cas de Bocage, la marque de chaussures du groupe Eram, par exemple. Imaginez un peu revendre vos chaussures que vous avez portées, usées. Ce n'est a priori pas le produit phare de la seconde main. Et pourtant, quand ces chaussures ressortent de l'usine de Montjean-sur-Loire, près d'Angers, vous allez l'entendre avec le reportage d'Olivier Samin, eh bien, elles sont comme neuves.
On a reçu cette paire de chaussures, vous voyez qu'il y a des griffures sur le cuir dont la semelle est abîmée tout simplement parce qu'elle a été portée.
Qu'à cela ne tienne, dit le patron du site Jean-Olivier Michaud. Débactérisation, réenformage, remise à neuf de la semelle et du talon, une journée plus tard le produit n'a plus rien à voir.
Si je vous mettais cette chaussure dans les mains au début, je ne sais pas si vous verriez qu'elle a déjà été portée. Et donc ce type de produit repart directement chez Bocage, qui va le vendre dans son réseau à moitié prix.
Ça fait 2 ans que Bocage, marque du groupe Eram, a lancé son système de location de chaussures. Une paire différente tous les 2 mois, puis renvoie au magasin pour une remise à neuf ou presque. Pour la directrice de la marque, Clémence Cornet, Les clientes peuvent ainsi conjuguer mode et économie circulaire.
On leur propose cette nouvelle alternative de consommation qui permet de se faire plaisir avec la mode, mais de manière plus responsable, puisque leurs chaussures connaîtront une seconde vie dans ce nouveau circuit de seconde main.
À l'échelle de la marque, le système est encore embryonnaire, mais l'objectif est d'en faire une vraie alternative à la vente de chaussures neuves.
On a bien entendu, Élise Dangean, vous êtes toujours avec nous. On ne parle pas que de vente, là, on a parlé de location de chaussures.
Absolument, c'est un service qu'offre Bocage pour 34 euros par mois et ça vous permet de changer de chaussures tous les deux mois.
Voilà, c'est quand même très très étonnant. Et ce principe de l'occasion, vous pensez qu'il va faire revenir les clients en magasin ?
C'est en tout cas le but. Prenez Saint-James par exemple, la marque veut reprendre le contrôle sur son image et éviter que ses produits soient revendus ailleurs. Elle va donc offrir d'ici peu un service de seconde main en magasin et ça va fonctionner, dit Bruno Vanov. Il est le directeur commercial de Disruptual, une entreprise qui édite des plateformes de seconde vie pour les marques.
Ça va générer du trafic, ça va recréer du lien et vous allez pouvoir discuter avec vos clients et puis vous allez faire de l'acquisition de nouveaux clients qui ne connaissaient peut-être pas la marque. Et grâce à l'occasion, ils vont rentrer dans votre magasin et voir la qualité, le service et l'ensemble de la gamme des produits que vous proposez.
Voilà, et le potentiel est énorme. Je vous donne un chiffre, un seul, Vinted, le spécialiste en ligne de la seconde main, compte plus de 12 millions d'abonnés en France.
Vinted qui marche très très fort. Je me souviens très bien, il y a un peu plus d'un an, nous avions reçu le patron de Vinted sur Europe 1. Je vous sens pas prête, Hélène Zélani, pour les chaussures d'occasion.
Les chaussures, je ne sais pas, mais tout le reste, alors là, je suis à fond.
Elle est partie. Hélène Zélani, les courses de Noël, évidemment. Merci Élise Dangean. Dossier réalisé avec Olivier Samin, vous l'avez entendu. On retiendra vraiment que cette tendance est en train de s'inscrire dans notre quotidien.
Le verdict des attentats de janvier 2015 rendu hier, décision mesurée qui restera pour l'histoire selon les avocats de victimes. La cour d'assises spéciale a prononcé des peines allant de 4 ans à la perpétuité. Et puis, verdict à l'encontre de Cécile Bourgeon, la mère de la petite Fiona morte en 2013. 20 ans de prison, 18 pour son ex-compagnon. Elle avait été condamnée à 5 ans en première instance. Son avocat se pourvoit en cassation.
La politique à présent, y aura-t-il ou pas des primaires pour désigner le candidat des Républicains à la présidentielle ? On range la question sous le tapis.
Oui, le parti va l'examiner fin juin après les régionales. Si un candidat s'impose naturellement, tout le monde se rangera derrière lui. Et sinon, les militants devront les départager. Celui qui se verrait bien en candidat naturel, c'est Xavier Bertrand. Il a maintenant 6 mois pour convaincre Aurélie Herbemont.
Xavier Bertrand n'est plus LR, mais il a suivi ce qui se tramait au bureau politique via ses lieutenants. Et le verdict n'est pas mal du tout à ses yeux. Son objectif, être ce candidat naturel. Sauf que certains lui en veulent toujours d'avoir déserté, comme ce sarkozyste qui lâche. Ça fait 4 ans qu'il nous bassine et il n'est toujours pas le candidat naturel. Riposte d'un pro-Bertrand, les aigris seront les premiers à nous demander de rejoindre l'équipe. Seule solution pour réussir l'opération Bertrand, d'abord tuer le match dans les sondages. Il est autour de 16%. Interdiction de baisser, nécessité de monter pour être incontesté. Ensuite, continuer à se rabibocher avec les uns et les autres chez LR. Et bien sûr, affiner son programme centré sur le travail, l'ordre et l'écologie. Il faut qu'il mette le turbo pour trouver une idée qui emballe, dit un de ses partisans. Sa difficulté, 2 campagnes à mener de front, être réélu président des Hauts-de-France et se faire adouber par LR.
Le football à présent, vous avez beaucoup parlé bien sûr des incidents lors du match entre le Paris Saint-Germain et les Turcs de Başakşehir la semaine dernière. Rencontre de Ligue des Champions, arrêté pour des propos racistes tenus par le 4e arbitre contre un entraîneur d'Istanbul.
Eh bien cette énorme polémique pourrait finalement se dégonfler car des deux côtés, on s'est parlé et on est désormais plus mesuré, Jean-François Pérez.
Oui, à commencer par Achille Webo, l'entraîneur adjoint d'Istanbul. C'est par lui que le scandale était arrivé. Le 4e arbitre réclamait son expulsion pour comportement inacceptable, appelant en roumain l'arbitre central à sévir en désignant, je cite, « Ăla negru », le noir là. Webo a-t-il dérapé verbalement ? Interrogé par la télévision turque TRT, l'ancien international camerounais ne le nie pas.
Mais c'est normal, vous savez, quand il y a une action et une réaction, il va y avoir beaucoup de choses se sont dites.
Selon la presse roumaine, Webo aurait qualifié les arbitres de gitans juste avant le désormais célèbre Ăla negru, entendu comme négro par le banc turc, une insulte qui n'existe pas en roumain. Le Sénégalais d'Istanbul, Dembaba, a poussé les joueurs à quitter le terrain, mais aujourd'hui, il se montre bien moins véhément.
Le problème n'est pas d'avoir appelé le coach un homme noir, mais tu dois faire attention quand tu es arbitre. Est-il raciste ? Je dirais probablement pas. Un commentaire raciste peut-il sortir de la bouche d'un homme non raciste ? Oui, absolument.
Mise en relation par un ancien coéquipier, Dembaba et l'arbitre roumain, très affectés, se sont parlé au téléphone. Maladresse coupable, oui. Racisme, non, lui a dit Colcescu en substance. L'enquête de l'UEFA se poursuit.
Jean-François Pérez.
Merci beaucoup Hélène Zélani, c'était le journal de 7h sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h14 sur Europe 1, l'éclairage éco avec Nicolas Barret, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
C'est un cas d'école. Pour avoir osé critiquer la Chine, l'Australie fait l'objet de sanctions économiques sans précédent.
Oui, et à travers l'Australie, Pékin adresse un message à l'Occident. Si vous nous critiquez, eh bien, regardez ce qui va vous arriver. La colère de Pékin à l'égard de Canberra a commencé il y a quelques mois lorsque le Premier ministre australien Scott Morrison a demandé l'ouverture d'une enquête indépendante sur l'origine de l'épidémie de Covid-19. Xi Jinping ne l'a pas digéré. Il a décidé de faire payer très cher aux Australiens leur insolence. Tout est bon pour les faire payer. La Chine a mis fin aux importations de bœuf. La Chine est le premier client des éleveurs australiens. Elle accuse les Australiens de dumping sur le vin. Elle a décidé d'imposer des droits de douane faramineux de 80% sur l'orge et d'autres produits. Et depuis ce week-end, la Chine bloque les importations de charbon australien.
Et il faut le savoir, le charbon, c'est le deuxième produit d'exportation de l'Australie.
Voilà, alors qui a du coup saisi l'OMC, mais enfin ça n'aura aucune conséquence rapide. Les Australiens redoutent d'autres sanctions chinoises, car Pékin, vous savez, ne fait pas dans la nuance. Fin novembre, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères avait posté sur Twitter une photo trafiquée d'un soldat australien serrant un couteau plein de sang sur la gorge d'un enfant afghan. Twitter est interdit en Chine, mais enfin ça n'empêche pas la propagande du régime de s'en servir. La Chine a décidé de traiter l'Australie en ennemi aussi parce que c'est le premier pays qui a écarté Huawei des réseaux 5G, mais également qui a critiqué la Chine pour ses agissements au Xinjiang et à Hong Kong.
Et ce bras de fer à des milliers de kilomètres, il est suivi avec beaucoup d'attention chez nous.
Oui, on y voit un peu une répétition générale de ce qui pourrait nous arriver à nous, Français, Allemands, Britanniques. Dans ce bras de fer inédit avec un grand pays occidental, la diplomatie de Xi Jinping utilise toute la palette des pressions économiques possibles. Alors évidemment, vis-à-vis d'un pays dont 40% des exportations vont vers la Chine, ces pressions font très mal. L'Europe est un peu moins dépendante des Chinois, mais on doit anticiper des relations plus rugueuses à l'avenir. Les plus inquiets, ce sont les Britanniques. Le Royaume-Uni post-Brexit se trouvera un peu dans la même position que l'Australie, seul face à des pressions économiques chinoises. Parmi les 14 griefs adressés par Pékin aux Australiens, il est fait mention de la manière dont les médias australiens parlent de la Chine, des sanctions économiques pour museler la presse au-delà de ses frontières. Le régime de Xi Jinping ose vraiment tout.
Merci Nicolas Barret, vous l'aurez compris, hein, cet avertissement pour les autres pays occidentaux regardant ce bras de fer entre la Chine et l'Australie. Pékin, vous le savez, ne fait pas dans la nuance, disait Nicolas Barret. J'ai vu les sourcils de Vincent Hervouet se lever à la prononciation de cette phrase.
Je pense que Nicolas Barret devrait aller faire un stage de rééducation de longue durée dans le Xinjiang.
Le regard international de Vincent Hervouet, vous l'avez reconnu à 7h16. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Il y a 10 ans, la mort de Mohamed Bouazizi et le début de la révolution en Tunisie.
Un étudiant chômeur qui vend des primeurs à la criée pour ne pas crever de faim, la police le rançonne, il s'immole par le feu. C'est le drame en 3 actes qui a révolté la Tunisie il y a 10 ans pile. Pour qu'il emporte le régime, il a fallu la maladresse de Ben Ali, devenu autiste, et que ses alliés, l'armée, la police, les États-Unis, le trahissent. Il a fallu aussi et surtout que la classe moyenne tunisienne ait soif de liberté démocratique. Elle a vécu son mai 68, 20 ans, ça suffit. Le général a été viré. Ça harpie aussi que les Tunisiens détestaient.
C'est la révolution du jasmin au parfum enivrant.
Il a saoulé le monde arabe. 10 ans après, la gueule de bois est épouvantable. Partout, la révolution a fini en guerre civile ou en dictature. Quand ils se comparent à leurs voisins, libyens, égyptiens, sans parler des Syriens ou des Yéménites, les Tunisiens se disent qu'ils sont bien. Mais quand ils se contemplent, quand ils comparent leur situation à celle de leurs parents ou de leurs grands-parents, ils ont de quoi être amers.
Au moins, ils ont des élections, ils ont une presse libre, un état de droit, Vincent.
Ben, la société civile a sauvé tout ça, elle a endigué la soif de pouvoir insatiable des frères musulmans, elle a résisté au coup de boutoir des terroristes. La rançon de cette liberté, c'est une instabilité chronique. 228 partis politiques s'agitent, il n'y a pas de majorité claire, l'esprit de division est partout, les frères musulmans campent au cœur de l'État, leur chef Ghannouchi préside le Parlement, et en attendant, les technocrates gouvernent. Évidemment, c'est pas brillant. Depuis 10 ans, ils n'ont pas construit 1 kilomètre de route ou de chemin de fer. La faillite menace, le pays rouille, la corruption est générale. Ce mois-ci, La mort d'un médecin a fait scandale. Après avoir travaillé 24 heures d'affilée, il est tombé dans la cage d'escalier d'un hôpital de province délabré comme les autres. Et ça ressemble à une allégorie. Depuis 10 ans, malgré son courage, la Tunisie est tombée de haut.
Merci Vincent Hervouet. Il est 7h18.
Europe Matin. Le 7-9. Mathieu Béliard.
7h22 sur Europe 1, l'édito sport de Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Lille reste leader du championnat de France de football après sa victoire 2-0 à Dijon hier soir. Sportivement, tout va bien, mais le club va changer de main. Le propriétaire, Gérard Lopez, devrait le vendre à un fonds d'investissement luxembourgeois. Pour vous, c'est la fin d'un modèle économique voué à l'échec.
Mais les victoires sur le terrain sont parfois illusoires. Le LOSC est une des équipes les plus enthousiasmantes de cette première partie de saison. Oui, mais ça ne suffit pas pour pérenniser un projet. Depuis son arrivée, Gérard Lopez, le propriétaire, a fait un pari, faire progresser le club par la spéculation. Alors ça a l'air d'un gros mot comme ça, mais l'idée elle est intéressante. On achète de jeunes joueurs au fort potentiel, on les fait progresser, puis on les revend à prix d'or pour réaliser de jolis culbutes. Ça a fonctionné un temps, lors de la saison 2018-2019, les jeunes pousses du LOSC ont brillé, le club a fini sur le podium de Ligue 1, qualifié pour la Ligue des Champions, et les mastodontes du foot anglais sont venus faire leur marché. L'attaquant Nicolas Pépé, par exemple, a été vendu 80 millions d'euros à Arsenal. Gérard Lopez a essuyé de nombreuses critiques. On lui reprochait notamment de ne s'intéresser qu'aux questions financières. Mais c'est pas tout à fait vrai. Pour que les joueurs prennent de la valeur et puissent être vendus, pour que Lille réduise sa dette, il faut des résultats sur le terrain. La croissance du club dépend donc du football. Et depuis que Christophe Galtier est sur le banc lillois, on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir un projet de jeu.
Et c'est la crise qui a eu raison de ce modèle économique ?
En fait, c'est un modèle qui ne peut fonctionner que quand tout va bien. Et là, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne va pas très bien. Entre la crise sanitaire qui a vidé les stades et Media Pro, le mauvais payeur qui engendre une crise des droits télé, le LOSC n'arrive pas à réduire son endettement. Pourtant, le club a encore vendu des joueurs cet été, mais ça ne suffit pas. Pour que ce modèle fonctionne, il faudrait des ressources supplémentaires que Lille ne peut pas obtenir. Ça n'est pas un club assez populaire au niveau national et a fortiori international pour générer d'autres revenus qui seraient indispensables pour pérenniser le projet de départ. D'ailleurs, c'est Gérard Lopez qui dresse le constat. Le temps est peut-être venu d'un changement de modèle économique. Alors là, avec l'arrivée probable de Merlin Partners, ça devrait permettre d'avoir une situation financière plus stable. Et le football, dans tout ça, le futur propriétaire veut garder Christophe Galtier, mais est-ce que l'entraîneur aura envie de rester avec cette nouvelle donne ? Pas sûr. Donc, le LOSC pourrait bien régler sa crise financière en se créant une crise sportive.
Et Lille, pour l'instant, reste leader de Ligue 1. Il y a Paris bientôt, je crois. Au programme pour
dimanche.
C'est dimanche soir.
Oui. J'avais un léger doute, je m'appuyais sur vous. Non, je croyais que c'était pour le leader et je me disais, c'est pas possible.
Merci Virginie Fulpin, votre édito sport tous les matins sur Europe 1. Nous retrouvons à présent Stéphane Bern pour parler d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Aujourd'hui, ce n'est pas une expression, mais un attribut masculin dont il sera question, rassurez-vous, nous resterons tout à fait convenables puisque nous allons nous intéresser de près à la pomme d'Adam.
Oui, bon, pas trop près quand même, on n'oublie pas les gestes barrières, mon cher Stéphane. Pourquoi ce nom pour cette proéminence exclusivement masculine que l'on trouve sur la face antérieure du cou ?
Eh bien, qui dit Adam dit Ancien Testament. Le compagnon d'Ève, contrairement à cette dernière, n'a pas réussi à avaler le fruit défendu, resté coincé dans la gorge. Cela explique la pomme d'Adam. Mais ce qui est cocasse, c'est que le mot « pomme » n'est inscrit nulle part dans la Bible. On y parle de fruits, mais pas de pommes. Pourtant, dans bien des tableaux, c'est la pomme qui est choisie pour symboliser la tentation. Or, la Genèse dit notamment « Les yeux d'Adam et d'Ève s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils en firent des ceintures. » De figues, il est question, mais pas de pommes. L'origine de la confusion vient sûrement du Nouveau Testament. Le fruit défendu est appelé « pomum ». Or, si le mot signifie exclusivement « fruit », il ressemble au mot « pomme ». Une ressemblance qui a poussé les artistes à figurer Ève tenant une pomme dans la main. Pour terminer, voilà un dernier mot, mais un peu long. Chondrolaryngoplastie, c'est la réduction chirurgicale de la pomme d'Adam. Certains hommes sont complexés de l'avoir trop proéminente après tout, mais qui sommes-nous pour juger ?
Chondrolaryngoplastie. Il faut avoir réussi à le dire pour avoir droit à l'opération. 16h tout à l'heure, on vous retrouve avec Mathieu Noël pour Historiquement Vôtre.
Champagne ! Oui, on réunit la veuve Cliquot, le moine Dom Pérignon qui aurait inventé le champagne et une invitée qui aime en boire, champenoise de l'année 2015, s'il vous plaît, écrivaine à succès, Amélie Nothomb nous accompagnera.
Quel apéro vous avez prévu à 16h tout à l'heure ?
Je peux vous dire que on ne fait pas que le regarder le champagne. Bref, on vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Mathieu Noël de 16h à 18h sur Europe 1.
À tout à l'heure, 16h, Stéphane Bern. Il est 7h26. 7h29, le temps avec vous, Laurent Cabrol.
Allons-y pour les plus gâtés. Le Midi-Pyrénées, le Poitou-Charentes, la Vallée de la Loire, la Bretagne, la Normandie, la Picardie, le Nord, vous aurez un temps lumineux et plutôt sympathique. Les pluies méchantes, hein, Languedoc, Delta du Rhône et Rhône-Alpes. J'y reviendrai tout à l'heure, il faut que j'y revienne à tout prix là, hein, puisque c'est important pour les jours à venir. La pluie va gagner très vite, la Lorraine, l'Alsace, la Franche-Comté, le Mâconnais et l'Auvergne, il va pleuvoir dans ces régions. Elle va quitter la pluie, elle va quitter les petites brunes, la région parisienne, la Champagne-Ardenne, le Berry, la Gironde, les Landes et le Limousin. Les températures maximales entre 12 et 16 degrés, donc fourchette très resserrée, c'est encore la douceur. La douceur et la pluie seront encore présents la semaine prochaine. Après, ça va se gâter, on en reparle.
Merci beaucoup, Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Bonjour Sophie Echen.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, un nouveau journal, il est 7h30.
L'idée, c'est en effet d'immuniser par le nez. On va donner un spray plutôt que d'une injection avec une aiguille dans un bras qui va bloquer le virus directement à la porte d'entrée.
Et si le vaccin anti-Covid était administré par le nez ? Les scientifiques de l'Institut Pasteur de Lille travaillent en ce moment sur ce spray moins coûteux et plus facile à conserver que le vaccin traditionnel. Le procès de l'affaire Fiona, le verdict est tombé hier. 20 ans de prison pour la mère de la fillette qui n'avait été condamnée qu'à 5 ans lors du précédent procès. Et puis les stages de 3e bouleversés par le Covid. Cette année, ils se font à distance. Reportage à la fin de ce journal.
Et juste après, le tête-à-tête Europe Matin avec Rada Hatem, gynécologue, obstétricienne, fondatrice de la Maison des Femmes à Saint-Denis. Le bureau politique des Républicains choisit de ne pas choisir. C'est l'édito politique de Nicolas Bétou, juste avant Nicolas Canteloup, qui conseille à sa manière l'invité de la matinale. Aujourd'hui, Catherine Hill, épidémiologiste et biostatisticienne. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Mais tout d'abord, cette information qu'Europe 1 vous révèle ce matin, l'arrestation en Normandie d'une bande d'escrocs qui s'en prenait à des prêtres. Guillaume Bié.
Il faisait appel à la charité des hommes d'église. Suivant un scénario parfaitement huilé, l'un des escrocs se faisait passer pour un ancien paroissien, devenu veuf et subitement dans le besoin pour la caution d'un logement ou l'achat d'une voiture, quitte à fournir le numéro d'un faux gendarme, un complice, pour attester de sa bonne foi. 26 prêtres, souvent très âgés, se sont ainsi fait berner, délestés de 150 000 euros au total, répartis sur différents comptes ou retirés en liquide par les escrocs. Hier matin, les policiers du Havre ont interpellé 14 suspects, qui sont bien connus de leur service. Certains ont déjà été arrêtés exactement pour les mêmes faits, dans une précédente affaire où ils auraient escroqué 80 prêtres de la même manière. Un vaste dossier bouclé depuis 2 ans déjà, mais qui n'a toujours pas été jugé d'après nos informations, laissant les suspects libres d'agir et de pécher.
Information signée Guillaume Bié, chef du service police-justice d'Europe 1.
Dans l'actualité, ce double record aux États-Unis, plus de 3700 morts du Covid enregistrés en une journée et plus de 250 000 nouvelles contaminations.
En France, alors que la campagne de vaccination pourrait démarrer avant la fin de l'année, le gouvernement l'a annoncé hier. Ce matin sur Europe 1, on va se pencher sur ce projet à l'étude en ce moment à l'Institut Pasteur de Lille. Un vaccin de deuxième génération, administrable celui-ci par voie nasale.
Bonjour Lionel Gougelot.
Bonjour.
Correspondant d'Europe 1 à Lille. Alors les travaux n'en sont qu'à leur début, mais déjà la piste semble prometteuse.
Eh bien oui, parce que l'Institut Pasteur de Lille travaille déjà sur un vaccin nasal qui empêche la pénétration du germe de la coqueluche par le nez. Alors sur le même principe, avec ce que le professeur Camille Lort qualifie lui-même de bricolage génétique, eh bien on peut introduire par le nez un antigène du Covid.
Donc l'idée, c'est en effet de protéger directement par le nez. Donc l'immunité induite localement va bloquer le virus directement à la porte d'entrée. Donc on va immuniser par le nez, on va donner un spray plutôt que d'une injection avec une aiguille dans un bras. Eh bien, on va tout simplement faire un spray ou une goutte nasale qui permet justement d'induire cette réponse immunitaire bloquante.
Un vaccin, assure le scientifique, qui serait de par sa conception bien moins cher à fabriquer et surtout plus facile à conserver et donc à transporter.
C'est un vaccin qu'on peut conserver très facilement à 4 degrés, voire à température ambiante, pendant au moins 2 ans. On n'a pas été encore au-delà. Donc c'est évidemment, du point de vue logistique, quelque chose d'intéressant. On n'a pas besoin d'une conservation à moins 80 degrés.
Alors pas de concrétisation avant plusieurs mois, hein, mais l'espoir de l'Institut Pasteur de Lille, c'est que ce vaccin de deuxième génération offre une protection plus durable en garantissant que les sujets vaccinés ne seront plus contagieux, ce qui n'est pas démontré par les premiers vaccins actuellement sur le point d'être administrés.
À Lionel Gougelot à Lille pour Europe 1.
Y aura-t-il un cinquième procès Fiona ? La mère de la fillette, Cécile Bourgeon, a été condamnée hier à 20 ans de prison.
18 ans pour son ancien compagnon Berkane Makhlouf, mais l'avocat de Cécile Bourgeon annonce d'ores et déjà qu'il va se pourvoir en cassation afin d'obtenir la tenue d'un nouveau procès. Maître Renaud Portejoie.
C'est une décision que je trouve absurde. Cécile Bourgeon cristallise encore aujourd'hui tous les fantasmes. C'est la mère, c'est celle qui a menti, c'est celle qui ne retrouverait pas le corps de sa fille. Donc elle cristallise tout et on ne lui pardonne pas ce qu'elle a pu faire. On ne lui pardonne pas ce mensonge et on lui fait payer judiciairement. Et elle repart en prison, il est bien évident qu'elle a comparu libre et qu'elle va régulariser une demande de mise en liberté dès demain, qui sera audiencée dans les prochaines semaines devant la chambre de l'instruction. Donc on se revoit dans quelques semaines pour cette demande de mise en liberté. Sans surprise, un pourvoi en cassation va être régularisé dès demain. Je peux d'ores et déjà vous annoncer qu'il y aura immanquablement un cinquième procès final. Cécile Bourgeon est sous le choc, comme nous tous. Elle avait grand espoir que cette affaire se termine ce soir. Elle reste combative et elle sera là lors de son prochain procès dans les prochains mois.
L'avocat de Cécile Bourgeon, maître Renaud Portejoie, avec Jean-Luc Boujon. De 4 ans de prison jusqu'à la réclusion à perpétuité, le verdict du procès des attentats de janvier 2015 est tombé hier. La qualification terroriste a été écartée pour 6 des 11 accusés présents à l'audience. Et puis on attend aujourd'hui le verdict du procès de l'attentat manqué du Thalys Amsterdam-Paris. La perpétuité a été requise contre Ayoub El Kazani qui avait failli commettre un massacre avant d'être maîtrisé par plusieurs passagers.
On va parler à présent de ce casse-tête pour les élèves de 3e. Puis pour leurs parents, bien sûr. Habituellement, c'est pendant cette dernière semaine avant les vacances de Noël que les collèges organisent le fameux stage de découverte en entreprise. Mais cette année, à cause de la crise, à cause de l'épidémie, bien sûr, nombreuses sont les sociétés qui ont refusé d'accueillir des collégiens.
Mais l'association Alliance pour l'éducation a trouvé la parade pour ne pas priver les jeunes des quartiers sensibles de cette expérience. Finalement, ce n'est plus l'élève qui va en entreprise, c'est l'entreprise qui s'invite au collège par visioconférence. Et ça fonctionne plutôt bien, vous allez l'entendre. Carole Ferry a participé à une journée de stage virtuel dans un établissement de région parisienne.
Bonjour à tous, je m'appelle Baptiste et je vais vous expliquer quel est mon job.
Son job, UX designer, c'est la personne chargée de faciliter l'utilisation d'une application ou d'un site internet. Ce qu'il explique par visioconférence aux 15 élèves assis en face. Arrivent ensuite les questions, avec quels outils travaillez-vous, quels sont vos horaires ou encore faut-il venir en costume et puis...
Est-ce qu'on peut avoir une fourchette de votre salaire si ça vous dérange pas ?
Ouais, dans ma poche, à la fin du mois, je dois être à 2600, quelque chose comme ça.
C'est bien payé.
Une semaine de stage au total, Kassan appréhendé au départ.
Je me disais que, je sais pas, ça allait être nul, un truc comme ça, mais moi, les métiers qu'ils font, ça me plaît bien, ça me projette. Mais faut choisir le bon métier pour être motivé, pour se réveiller le matin après.
Même à distance, cette découverte de l'entreprise reste essentielle, selon l'animateur Arnaud Anavi. En particulier dans ces quartiers difficiles.
On a vraiment des jeunes qui sont intéressés, des profils qui habituellement, d'après leurs professeurs, sont très durs à maintenir en classe, qui au final se ressentent, se calment, ont un véritable échange et qui se passe très bien.
D'autant plus important que certains d'entre eux devront choisir leur orientation professionnelle dès la fin de cette année de troisième.
Un reportage de Carole Ferry au collège Paul-Éluard de Bonneuil-sur-Marne. Et on entend que ces jeunes savent poser les bonnes questions, la fourchette de salaire.
Oui, mais écoutez, ils sont prêts. Ils sont prêts à se lancer dans le monde de l'entreprise. Ils n'ont pas perdu le nord avec toute cette crise, cette pandémie, cette épidémie. Il y a quelques questions qui se posent toujours, évidemment. Merci Sophie Echen. C'était le journal de 7h30 sur Europe 1. Il est 7h38.
Europe Matin, le 7-9.
7h40 sur Europe 1. 4 ans après son installation, la Maison des Femmes à Saint-Denis, ce sont 13 000 consultations par an. La lutte contre les violences faites aux femmes, violences physiques, violences psychiques, accompagnement juridique. À l'origine du projet, mon invité qui aujourd'hui veut ouvrir des Maisons des Femmes partout en France, la gynécologue obstétricienne Rada Hatem.
Le tête-à-tête.
Mathieu Béliard.
Bonjour Rada Hatem.
Bonjour Mathieu.
Et merci d'être avec nous. Je voulais présenter votre travail aux auditeurs d'Europe 1. Parlons de la Maison des Femmes de Saint-Denis. Qu'est-ce que c'est concrètement ? Je suis une femme, victime de violences conjugales peut-être ou autres. J'écoute Europe 1 ce matin et j'habite pas loin de Saint-Denis. Qu'est-ce que je fais ?
Même si vous n'habitez pas, enfin plus loin de Saint-Denis, vous téléphonez, vous envoyez un mail à l'adresse contact, être la Maison des Femmes, où vous venez. Et vous dites, voilà, je ne vais pas bien, je ne sais pas exactement pourquoi, je ne me sens pas bien dans mon couple, dans ma relation, et j'aimerais en parler à quelqu'un. Et là, vous avez rendez-vous avec un professionnel qui va faire le point sur votre situation, qu'elle soit sociale, psychique, médicale, et vous proposer des soignants qui vont vous accompagner. Et cet accompagnement est évidemment, et c'est ça qui fait notre force, très diversifié et très complet. C'est la santé mentale, la santé somatique, c'est la justice, c'est le social, c'est la police, c'est des ateliers pour aller mieux, des groupes de parole pour partager et trouver des ressources. Et notre objectif, au fond, c'est que les femmes qui sont rentrées chez nous ressortent avec beaucoup plus d'autonomie et de sécurité. Une chose à savoir, on n'héberge pas. On s'appelle une maison, mais en fait, c'est plutôt le côté chaleureux et accueil, mais on ne s'occupe pas d'hébergement.
C'est un lieu d'accueil, d'accompagnement, ouais, de soins et d'accueil. Je regardais un peu comment c'est organisé, une unité planning familial. On va du planning familial jusqu'aux violences conjugales, en passant aussi, il faut en parler, par les mutilations sexuelles, l'excision notamment. Alors depuis, ce lieu a eu des petites sœurs dans plusieurs villes de France, Bordeaux, Brive-la-Gaillarde. Là, votre prochain objectif, c'est l'ouverture d'une maison des femmes à Marseille. On va en parler, mais j'ai regardé dans le détail que vous compariez Saint-Denis, où vous êtes installé, et Marseille. Vous faites un lien entre ces deux villes.
Oui, ce sont deux grandes villes quand même. Ce sont des villes polyculturelles et avec une population très socialement très, très diversifiée. Donc je me suis dit que Marseille finalement était un modèle tout à fait proche. Et puis à Marseille, il y a un gros hôpital, l'Assistance publique de Marseille. Et notre modèle, sa force aussi, c'est qu'il s'appuie sur un hôpital, toujours. Parce que dans un hôpital, il y a tous les soins qui peuvent compléter. Il y a la radiologie, les urgences, les orthopédistes si on est cassé. Et il y a un bloc opératoire si on a besoin de se faire opérer. Donc j'avais vraiment à cœur que les grandes villes, en priorité, pour commencer, il faut bien commencer, il ne faut pas oublier la ruralité, mais je t'ai intéressé par outiller les grandes villes.
Les grandes villes, pour ce qu'elles représentent en bassin de population, pour l'appui sur l'hôpital aussi, on a bien compris, évidemment, vous vous inscrivez en complément du système de soins français. D'autres projets, Reims, Versailles, Caen, Rennes, il y a un enjeu de territoire, être présent, présente sur un maillage des villes. Vous n'êtes Allez, pas forcément dans un fonctionnement télétravail distanciel chez vous.
Difficile. Non, il faut mailler le territoire, parce que pour toutes ces situations compliquées, la vie des femmes est déjà difficile. Alors si en plus il faut aller très loin, il faut multiplier les rendez-vous, ça devient mission impossible et les gens abandonnent. Plus c'est près de chez vous, plus la justice aussi est de proximité. Et mieux ça fonctionne pour vous.
Il y a une forte hausse que vous avez constatée, une forte hausse des demandes de prise en charge pendant le confinement ?
Oui, et juste à la sortie du confinement, oui. Parce que pendant le confinement, les gens étaient quand même un peu tétanisés et prenaient très peu de risques. À la sortie du confinement, évidemment, tout ce que les femmes et les enfants avaient vécu a commencé à sortir. Et nous, on a eu des femmes qui avaient été vraiment, vraiment très abîmées. J'ai des amis pédiatres qui me racontent des enfants hospitalisés avec des fractures du crâne, des morts post-violentes. Bon, c'est quand même un problème inacceptable dans notre société, je pense.
C'est parfaitement inacceptable et il faut le combattre sans relâche, mais cela dit, ça souligne ce qui s'est passé aussi pendant, c'était aussi ça le confinement, cette impossibilité de s'enfuir pour bien des femmes. Et vous avez mentionné les enfants, ces femmes dans la maison des femmes à Saint-Denis, elles sont accueillies avec leurs enfants si elles arrivent avec leurs enfants.
Tout à fait. Et c'est pour ça que aussi nous avons levé des fonds nous-mêmes pour pouvoir avoir une petite antenne enfant. Parce que quand on voit les enfants de ces femmes avec elles, on comprend qu'ils ne vont pas bien et qu'on ne peut pas les laisser sans aucun soutien.
Rada Hatem, je voulais vous poser cette question d'actualité avec la présentation du projet de loi confortant les principes républicains. On a découvert, pour beaucoup, qu'à l'aube de 2021, il y a en France des certificats de virginité qui sont délivrés par des médecins. Il fallait l'interdire à tout prix ? Non ?
Non. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est arriver à convaincre les parents de ces jeunes femmes, qui ne sont pas des mineurs, hein, que ces certificats ne servent à rien et que la virginité des filles ne les regarde pas. Malheureusement, le poids de la culture est monstrueux. Hier, j'ai rencontré une maman comme ça, qui était très à cheval sur la virginité de sa fille, et qui me dit « Moi-même, je m'automutile, je m'empêche d'avoir du plaisir, je suis divorcée depuis 25 ans, je n'ai aucun autre conjoint ». Dans ma culture, ce n'est pas possible. Donc, c'est un combat culturel, c'est un combat sociétal, et ce n'est pas du tout un combat contre les médecins. Je suis persuadée qu'on fait fausse route.
Mais si je vous posais la question, c'était fait exprès, Rada Hatem, parce que je comprends bien que... J'essaie de voir où vous voulez vous inscrire avec cette Maison des Femmes, entre l'État et le monde associatif, entre ces femmes qui, parfois, sont peut-être aussi enfermées dans un schéma culturel, pour certaines, et qui n'irait pas frapper auprès de la République tout de suite, mais il y a la Maison des Femmes. C'est un peu ça que vous défendez.
Tout à fait. C'est un lieu qui défend l'autonomie des femmes, et beaucoup de cultures empêchent les femmes d'être autonomes. Beaucoup de religions empêchent les femmes d'être autonomes. Donc nous essayons à la fois de soigner, mais aussi de prévenir.
Alors, pour les auditeurs d'Europe qui vous découvrent, qui voudraient peut-être vous aider, qui sont peut-être en région marseillaise et qui aimeraient voir arriver une maison des femmes, vous avez lancé un appel aux dons, tout simplement, sur le site helloasso.com, avec plusieurs personnalités, je pense à Julie Gaillet, à Philippe Catherine, à Alexandra Lamy, qui vous sont venus en aide pour ce petit clip d'appel aux dons.
Avec un euro, moi je construis une maison.
Et pas n'importe laquelle. Une maison pour les femmes victimes de violences.
Moi aussi, avec un euro, je construis une maison.
Il y a déjà une maison des femmes à Saint-Denis.
Elle accueille 4000 femmes par an.
Qui ont subi violences, incestes, excisions, viols.
Il faut d'autres maisons comme celle-là.
Parce que d'autres femmes ont subi cela dans toute la France.
Donner, c'est soigner.
Rada Adem, permettez-moi d'être un peu taquin. J'ai regardé le nombre de participants et un euro, on construit une maison et les gens donnent en moyenne une quarantaine d'euros. Il y a un besoin, il y a une envie de vous voir installer finalement du côté de Marseille.
Oui, très clairement. On a été inondés de propositions d'aide, de candidatures. C'est magnifique.
Mais un euro, pour le coup, c'est aussi la possibilité de vous donner un coup de main. Helloasso.com, la maison des femmes. J'ai insisté sur Marseille, c'est le gros projet que vous défendez, c'est quand même la deuxième ville de France. Il y aurait une raison pour que vous puissiez vous installer, mais d'autres projets dans d'autres villes de France. Rada Adem, mille merci d'être venu présenter ce projet ce matin sur Europe 1.
Merci Mathieu.
Et bon courage pour la suite. Gynécologue obstétricienne, Rada Adem, médecin et fondatrice de la Maison des Femmes à Saint-Denis, une militante de la cause féminine depuis une quarantaine d'années. Rada Adem sur Europe 1, ce matin, 7h48.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h51 sur Europe 1, l'édito politique de Nicolas Bétou. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
La réunion s'annonçait très tendue, mais en réalité, le bureau politique du parti Les Républicains s'est déroulé sans drame.
Les flingues ont été laissées au vestiaire. En fait, deux camps risquaient de se retrouver face à face au sein de la direction du parti. Ceux qui veulent que soit organisée une primaire pour désigner le prochain candidat à l'élection présidentielle et ceux qui n'en veulent pas. Côté pro-primaire, Bruno Retailleau, le patron des sénateurs LR, et aussi le président du Sénat, Gérard Larcher, qui veut un mécanisme de départage. C'est lui qui utilise cette litote pour ne pas prononcer le mot primaire. On ne sait jamais, ça leur a tellement porté malheur. En tout cas, de l'autre côté, il y a Christian Jacob, le patron, et une partie de la direction des Républicains. Dans les deux camps, les esprits s'étaient échauffés en prévision d'un affrontement qui finalement n'a pas eu lieu. Bien au contraire, une motion a été adoptée à l'unanimité.
Bon, et comment s'est opéré ce retournement ?
Grâce à une vieille technique, le choix a été fait de ne pas choisir, de remettre à plus tard, plutôt que de donner à leurs adversaires le spectacle de leur division. Gérard Larcher et Christian Jacob, les deux autorités tutélaires du parti, ont dealé avant la réunion un arrangement. Comme on dit, une mauvaise paix vaut mieux qu'une bonne guerre.
Et tout est arrangé ?
Alors on n'en est pas loin, même si les arrière-pensées sont toujours aussi vivaces. En fait, l'idée nouvelle qui est apparue, c'est de laisser le temps à un candidat naturel de s'imposer de lui-même. Un peu comme aurait pu le faire François Baroin s'il avait décidé de plonger dans le grand bain. Et si aucun candidat n'est apparu naturel cet été, alors il y aura un système de départage à la rentrée. À ce moment-là, on aura donc l'homme ou la femme. Mais on n'aura pas les idées.
Mais c'est-à-dire, on n'aura pas le programme ?
Évidemment non. Et là, ce n'est plus une question de mécanique, de départage ou de candidat naturel. C'est un problème de fond. Le parti Les Républicains n'a à ce jour aucune unité de pensée. Rien de commun entre un Guillaume Pelletier, le numéro 2 du parti, et un Gérard Larcher ou un Éric Woerth, le président de la commission des finances de l'Assemblée. Rien de commun entre une Nadine Morano et un Jean-François Copé. Et comme il n'y a à peu près aucune chance pour que tous ces gens-là se mettent d'accord sur un programme cohérent, partagé, eh bien ça signifie que c'est l'éventuel candidat naturel qui imposera le sien de programme.
Et s'il n'y a pas de candidat naturel ?
Alors le vainqueur de la primaire défendra le sien, mais il y a fort à parier que ce sera avec le même succès tout relatif que ce que fit François Fillon, vainqueur incontestable des primaires de 2016, mais dont le programme avait immédiatement été contesté à l'intérieur même de son propre parti. Comme quoi les Républicains feraient mieux de prendre d'abord du temps pour se mettre d'accord sur des idées plutôt que sur un nom.
Merci Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion, votre édito tous les matins sur Europe 1, juste avant 8h. Et tous les jours, nous retrouvons Nicolas Canteloup qui conseille à sa manière, bien sûr, l'invité de la matinale. Et à 8h15, Sonia Mabrouk interviewera l'épidémiologiste Catherine Hill. Et tiens, c'est Jean-Jacques Bourdin qui voulait lui dire un mot.
Eh oui, bonjour. Bonjour Mathieu, mon poulain, mon fils. Il ne fallait pas coutume, bonjour Europe 1, à la rédaction. Bonjour Nicolas Bétou.
Bonjour.
Oui, Laurent Cabrol. C'est vrai, c'est gentil. Et bonjour à Catherine Hill, une épidémiologiste, pardonnez-moi, reconnue, compétente. Oui, compétente, ce n'est pas la bonne femme habituelle. Non, c'est la voix qui peut vous rassurer. Oui, qui peut rassurer ces Français qui doutent sur les vaccins. Tiens, on va aller. une fois n'est pas coutume, on va prendre un auditeur qui voulait réagir à cette venue de Catherine Hill sur l'antenne. C'est René, d'après ma fiche. Bonjour René.
Ouais. OG Jack. Ouais, salut. Mais moi, alors, je vais te dire, les vaccins, je te surprends. Mais alors, ça m'inquiète. Mais alors, pas du tout. Hein. Les anti-vaccins, mais c'est pathétique. Je les vois sur Internet. C'est que des crados chevelus hein, qui boivent du purin d'ortie, hein, je sais pas quoi, là, en croyant que ça soigne le cancer. Non, c'est des hippies là avec leur médecine douce là. Non, mais c'est des barjots. Ils refusent une piqûre, ils se soignent avec de l'acupuncture. Non, mais les mecs, je te jure. En tout cas, moi je peux te dire, Jacques, je peux te dire, il me tarde de me faire vacciner, hein, j'ai hâte. Ah ouais, parce que j'en ai, mais alors plein le cul de mettre un masque là, de me laver les mains au gel, de prendre des douches et toutes ces conneries. Mais j'en peux plus. Vivement comme un vaccin. Que j'ai plus jamais à me laver. Hein. Vive les vaccins. Genre, je dis, j'hésite pas. Vive Catherine Hill. Voilà.
C'est possible. C'est signé Nicolas Canteloup qui conseille à sa manière l'invité de la matinale, l'épidémiologiste biostatisticienne Catherine Hill à 8h15 au micro de Sonia Mabrouk. Et Nicolas, on vous retrouve bien sûr à 9h moins le quart pour la revue de presque. 7h58 sur Europe 1. Alors, ça m'a interpellé tout à l'heure, Laurent Cabrol. Permettez-moi, ouais. Vous aviez annoncé de fortes pluies. Je crois dans le sud-est et disait qu'il fallait faire attention.
Oui, effectivement, ce sont ce qu'on appelle les pluies cévenoles. Hein, ce sont des pluies qui viennent de la mer avec des vents de mer et qui viennent se buter contre les Cévennes. Et donc, ces pluies cévenoles se déversent sous forme d'orages. Et ces orages, souvent, sont statiques, c'est-à-dire qu'ils ne bougent pas et qu'à partir du moment où ils sont statiques, eh bien, ils déversent de l'eau un peu comme un arrosoir au même endroit. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, ce serait ce type de pluie qui serait là, présente samedi et dimanche sur le Languedoc, en particulier dans le delta du Rhône. Et surtout dans les Cévennes. Et c'est là où est notre grande crainte, parce qu'il a déjà plu, et ça pourrait donner probablement, on espère que non, quelques inondations. Donc voilà notre crainte. Ça, c'est pour les jours à venir, mais déjà pour aujourd'hui, il y en aura. Sur le Midi-Pyrénées, le Poitou-Charentes, la Bretagne, la Normandie, la Picardie et le Nord, c'est du soleil, il fera beau. Si vous habitez le Berry, la région parisienne, Champagne-Ardenne, Gironde, Landes, Limousin, bon, il y a eu quelques petites pluies, il y en a encore un petit peu, mais ça va se calmer, ça restera nuageux sans plus. La pluie va gagner très vite, la Lorraine, la Franche-Comté, le Mâconnais et l'Auvergne. Et puis, c'est tout. Toutes les régions ont été citées parce que c'est le principe de cette météo ici à Europe 1. Entre 11 et 16 degrés, température maximale. 12 à Paris, 13 à Brest et 16 degrés du côté de Marseille.
Merci beaucoup, Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Bonjour François Geffrier.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1. Écoutez le monde changer. Il est 8h.
Allez, monsieur, oh, Pierre, en pomme de terre chaude. C'est maison, hein, tout maison.
Ouais, ça a l'air.
Bon appétit à vous.
Il est cool, ton pâté. Merci.
Ce que vous venez d'entendre n'est pas une archive, vieille de plusieurs mois. C'était hier soir à Paris, derrière la porte cadenassée d'un restaurant. Un menu, 20 clients, soirée tout à fait illégale, qui plus est en plein couvre-feu. Europe 1 s'est infiltré dans ce lieu où les masques et les restrictions sanitaires n'existent pas, visiblement. Quel décalage, quel vertige au regard des révélations d'Europe 1 ce matin. Les enseignements de l'étude de l'Institut Pasteur que tout le monde attendait, des patrons de bar jusqu'aux ministres. Vous allez savoir ce que dit la science sur les moments, les lieux où l'on se contamine le plus en France. Les métiers les plus touchés, nos informations en exclusivité dès le début de ce journal. À la une également, les ventes de tabac à des niveaux records entre confinement et fermeture des frontières. Et puis après le verdict du procès des attentats de janvier 2015, Michel Catalano, l'imprimeur, qui dit lui-même vouloir écrire une nouvelle page de sa vie.
Vous en parliez, l'étude de l'Institut Pasteur qu'Europe 1 révèle les lieux de contamination. Mais ce matin aussi, le calendrier de la campagne de vaccination, l'isolement des malades. Catherine Hill, épidémiologiste et biostatisticienne qui répond aux questions de Sonia Mabrouk, c'est à 8h15. Soyez les bienvenus sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Dans l'océan d'articles scientifiques publiés en un an sur le Covid-19, voici l'étude dont tout le monde parle depuis des semaines. Même le Premier ministre, dans ce studio, ici à Europe 1, mardi, l'attendait avec impatience.
Ces études sont engagées. Une va être publiée, je crois, cette semaine. Donc on va disposer d'une étude nationale.
Une étude nationale, car cela avait été fait dans d'autres pays, mais pas encore chez nous. Travail indispensable pour décider, pour justifier les mesures sanitaires. Le parcours de 25 000 malades, décortiqué par l'Institut Pasteur sous la direction d'Arnaud Fontanet. Et les enseignements de cette étude, c'est Europe 1 qui vous les dévoile en exclusivité ce matin.
Bonjour Victor Dolande.
Bonjour.
C'est vous qui avez eu accès à ce document. Alors ce qu'on apprend d'abord, c'est le lieu des contaminations.
Oui, c'est à la maison qu'on se contamine le plus. Ça représente les deux tiers des contaminations et ça passe en général par le conjoint. Ensuite, à l'extérieur, c'est la famille élargie qui vous contamine, puis vos collègues de travail et enfin vos amis. Pourquoi ? Parce que quand on se connaît, on oublie de porter le masque, aussi bien la personne contaminée que celle qui va attraper le virus. Dans le détail, cette étude, menée auprès de 25 000 personnes, nous montre même quels sont les moments les plus à risque. C'est avant tout les repas qui jouent un rôle central dans les contaminations hors foyer, la proximité avec les enfants, mais aussi le retard à l'isolement. 94% des malades se sont isolés, mais ils l'ont fait trop tard, seulement 42% dès les premiers symptômes, ce qui veut dire que pendant les premiers jours de la maladie, vous avez le temps de contaminer beaucoup de monde.
Ah, cet isolement tardif. Victor, il y a d'autres comportements à risque pointés par cette étude ?
Alors clairement, avoir été dans des bars, des restaurants et des salles de sport multiplie les risques d'infection. Et comme une partie de l'étude a été menée pendant le confinement, ça laisse supposer, je cite le rapport, que beaucoup de contaminations dans les bars et restaurants sont dues à des événements clandestins. En revanche, et c'est à souligner, quand vous vous rendez dans des commerces, ça n'augmente pas le risque d'attraper la maladie. Si on regarde ensuite les professions les plus touchées par le Covid, il s'agit des commerciaux, des personnels de santé, des cadres administratifs, des ouvriers et des chauffeurs. Les enseignants à l'école et à l'université, eux, ont été plus épargnés par le virus.
Victor Dolande qui signe ces révélations passionnantes ce matin sur Europe 1.
Et j'insiste sur l'importance de ce document attendu depuis des mois. Vous retrouvez toutes ces informations sur Europe 1.fr. Et Victor parlait du risque plus fort dans les restaurants. Deux reporters de la rédaction d'Europe 1 nous ont rejoints en studio, Jeanne Bergaoui et Pierre Herbulot. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
On parlait aussi à l'instant des événements clandestins. Ça n'est pas un mythe. D'ailleurs, vous-même, vous avez dîné hier dans un restaurant.
Oui, et on n'était pas tout seul. Il y avait une vingtaine de convives avec nous dans cette petite brasserie parisienne. On est arrivé juste avant le début du couvre-feu pour ne pas avoir d'ennui. Et on a pris une formule entrée plat dessert comme au restaurant.
Mais attendez, c'est possible. Comment est-ce que vous avez trouvé cet endroit ?
Alors, on a passé évidemment beaucoup de coups de fil. Ça marche par le bouche à oreille. Lundi soir, j'ai fini par avoir le nom d'un restaurant. J'ai appelé le patron pour lui dire qu'on cherchait un endroit où dîner. Il est à ce moment-là un petit peu suspicieux. Il me demande de passer le voir pour prendre un petit peu la température. On se fait passer pour un couple sans jamais dire qu'on est journaliste. Il finit donc par nous donner rendez-vous hier soir sans nous demander de nom ou de numéro.
Et alors justement, quand on arrive, on a d'abord l'impression que le restaurant est fermé, le rideau de fer est baissé, il y a un gros cadenas à l'entrée, pas de lumière. On appelle le patron qui vient nous chercher dehors par la porte de l'immeuble d'à côté.
Backstage.
Alors, ce que vous entendez, c'est notre passage par la petite cour de derrière. Le patron nous fait ensuite passer par l'entrée de service. On traverse la cuisine, vous l'entendez, il y a le chef qui est en train de préparer ses plats. On pousse une porte et nous voilà donc dans la salle du restaurant.
C'est bruyant, il y a de la musique, quelques tables dressées, des sapins de Noël dessus, des clients accoudés au bar un peu plus loin. On s'installe, le patron nous propose d'abord un apéritif, puis il nous apporte son ardoise.
C'est vraiment menu, comme au restaurant.
Allez monsieur, oh, il y a un grand pomme de terre chaude.
Et un petit merci.
C'est maison, hein, tout maison. Hein.
Ouais, ça a l'air.
Bon appétit à vous.
Il est cool, tu pâté.
Merci.
Et ça ressemble à... C'est surréaliste, on a oublié finalement cette ambiance. Ça ressemble à quoi, un restaurant clandestin ?
Eh ben, il y a vraiment un petit côté comme à la maison. En fait, quand on est arrivé, on tombe le masque, il n'y a pas de protocole sanitaire, il n'y a pas de geste barrière. Les clients, ils fument carrément à l'intérieur, derrière le rideau fermé.
Voilà, ça c'est pour le décor. Côté menu, c'est une brasserie classique avec plusieurs choix. En revanche, pour les boissons, c'est plus compliqué. Il n'y avait plus de vin rouge, il n'y avait plus de champagne. Le patron nous l'a expliqué. En fait, il est très rarement approvisionné, donc il est sur ses stocks, très clairement.
Pas de vin rouge, mon pauvre Pierre. Bon, vous nous l'avez dit, vous étiez loin d'être seul. C'était qui en fait les autres clients ?
Très clairement, c'était une clientèle d'habitués. Hein. Tout le monde ou presque connaît le patron, le tutoie, l'appelle par son prénom. Il offre d'ailleurs une bouteille à la table à côté de la nôtre. Et en l'occurrence, on a été frappé avec Jeanne hier de dîner à côté d'une table de gendarmes.
Les gendarmes, ils étaient en uniforme enfin...
Alors non, pas d'uniforme, on a longuement discuté avec eux et c'est eux qui ont fini par nous dire qu'ils étaient en mission dans la capitale. Nous, on n'a évidemment pas dit qu'on était journalistes et nous, donc c'était notre premier resto clandestin, eux pas du tout, c'est pas non plus leur dernier puisqu'ils ont prévu d'y retourner déjà cette semaine.
D'ailleurs, on est les bienvenus aussi, le patron nous le propose au moment où on règle l'addition.
2, 4, 6, 8, 10. Ah, ça va, ça a l'air pour vous ?
Ouais, c'est super.
Un peu le cas, vous pouvez venir manger une minute.
Et on se demandait la semaine prochaine, est-ce qu'on peut revenir à plus ?
On m'a appelé, on gère. Il faut un moment un petit peu rigoler quand même. Ouais. Hein ? Sinon on peut mourir.
Alors pour la petite histoire, à ce moment-là, quand on va partir, le couvre-feu a commencé depuis longtemps, le patron nous conseille de faire profil bas. Surtout, vous ne dites pas que vous étiez dans un restaurant, vous êtes sincère, vous dites que vous n'avez pas vu l'heure, c'est un peu son astuce. En fait.
Alors attention, ce que vous avez vu hier, c'est une situation, un restaurant, mais quand même, pourquoi est-ce que le patron prend un tel risque ?
En fait, il assume de contourner les règles. On sent qu'il y avait une certaine impunité dans son comportement. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne rattrape pas ses pertes de chiffre d'affaires avec une soirée comme ça, déjà parce que ce n'est pas tous les soirs, et parce qu'il a rentré même pas 500 euros de chiffre d'affaires en une soirée. En fait, on sent qu'il avait plus envie de faire vivre un petit peu son établissement.
Mais n'empêche qu'il risque gros en faisant ça. On le rappelle, si les prix, ça signifie fermeture administrative du restaurant.
Vous avez payé en carte bleue, en liquide ?
En liquide. On voulait pas laisser de traces.
Carte bleue, ça passait aussi puisqu'il fait de la vente à emporter, c'est ce qu'il nous a expliqué.
Voilà, qui a payé ? Pierre Arbulo, Jeanne Bergawi.
On s'est partagé l'addition.
Voilà, nos journalistes qui ont un peu joué avec le feu, pour vous informer. On aurait pu ne pas révéler leur nom, mais merci beaucoup Pierre Arbulo et Jeanne Bergawi.
Ouais, enfin, ils étaient assis à côté de gendarmes. Ils fumaient les gendarmes aussi à l'intérieur du restaurant, puisque tout est possible.
Ils ont fumé, ouais.
Ils ont fumé. Eh bien voilà, vous voyez, si j'ai bien suivi, vous avez passé la soirée sans masque, donc vous allez gentiment sortir de ce studio, pas rester avec nous trop longtemps. Et puis plus sérieusement, on va quand même rappeler à nouveau, évidemment, que les risques de contamination sont plus grands dans les restaurants, les bars, les salles de sport aussi, que dans les commerces. C'est ça c'est le sens de ces révélations qu'Europe 1 fait ce matin.
Dans l'actualité, il y a aussi ce chiffre record, 18 milliards d'euros, le montant des recettes fiscales issues simplement de la vente de tabac. 2 milliards d'euros de plus que l'an passé, conséquence de la hausse des prix du paquet, mais surtout d'un bond de la consommation légale, notamment dans les départements proches des frontières qui étaient fermés, les frontières pendant le premier confinement.
L'Ariège en particulier, plus 22% du volume de vente. Le reportage ce matin de Benjamin Péter pour Europe 1.
Le premier confinement, on a tout explosé.
Régine, qui tient l'avant-dernier bureau de tabac avant la frontière andorrane, n'a jamais vu ça. En mars et en avril notamment, beaucoup de ceux qui allaient habituellement s'approvisionner de l'autre côté de la frontière, où le paquet est deux fois moins élevé qu'en France, se sont rués dans son commerce.
On a fait quatre fois plus de tabac. Donc ce qui veut dire que toutes les semaines, on devait aller se réapprovisionner. C'était la folie, là que sur le trottoir. Pour le second confinement, on a fait 20% de plus à peu près. Les gens ont pu prévoir leur stock, ils ont une journée de marge et donc que ce soit les alentours ou autres, les locaux ont fait leur réserve.
Ce bond des ventes, Gérard Maury, le président des buralistes d'Ariège, le constate dans les 68 bureaux de tabac de son département. Et pour lui, c'est un bon moyen d'évaluer le marché parallèle.
Ce qu'il faut regarder, c'est les volumes. On est à plus 22. C'est colossal, mais ça nous a servi parce que le marché parallèle, on l'avait estimé à 20-25%. On nous disait non, vous exagérez. La réalité, dans les endroits comme chez nous, c'est bien au-dessus. Ça doit frôler les 50% parfois.
Mais c'est une embellie qui devrait être de courte durée. Depuis mardi, ceux qui le souhaitent peuvent retourner en Andorre et revenir avec une cartouche et demie sans risquer d'amende. Et les buralistes sont en train de retrouver les ventes d'avant confinement. En Ariège, Benjamin Péter, Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Europe 1, 8h11, la suite du journal, François Geffrier.
Une première réponse de la justice pour les victimes et leurs proches. Près de 6 ans après les attentats de janvier 2015, hier, tous les accusés ont été reconnus coupables, tous condamnés à de la prison ferme. À la sortie de l'audience, Michel Catalano, l'imprimeur qui avait été pris en otage par les frères Kouachi à Dammartin-en-Goële, était au bord des larmes.
Je ne pensais pas avoir encore autant d'émotions et autant de difficultés à vivre ces instants, mais c'est effectivement pas facile pour moi et ma famille. C'était une épreuve difficile, mais c'était important parce que j'avais besoin de comprendre, j'avais besoin d'y être, j'avais besoin de comprendre comment tout ça se passait, comment ça se faisait, pourquoi, comment, enfin voilà. En fait, ça, les peines, c'était pas ça que j'étais venu chercher. Moi, en fait, ce que j'étais venu chercher, c'est un certain nombre de réponses à mes questions. Et puis le fait de ne pas en avoir est une réponse en soi, c'est-à-dire que voilà, ça va clore quelque chose dans ma tête, j'espère en tout cas. Je vais pouvoir écrire une autre page de ma vie maintenant qui sera un peu différente, un autre chapitre, et que ça va me permettre de mieux supporter le reste maintenant.
Michel Catalano, micro Europe 1 de Justin Morin. Et puis cette décision extrêmement attendue en sport et en justice. La Russie saura aujourd'hui si elle est exclue pour 4 ans des grandes compétitions internationales, dont les Jeux Olympiques d'été à Tokyo, à Paris et ceux d'hiver à Pékin. Décision du tribunal arbitral du sport à 16h après plusieurs scandales de triche et de dopage.
Merci beaucoup François Geffrier. C'était le journal de 8h sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Et nous retrouvons Sonia Mabrouk et son invité. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Depuis le début de la crise sanitaire, elle n'a pas varié dans ses analyses et ses recommandations. L'épidémiologiste Catherine Hill tient un discours factuel sans faire appel au registre émotionnel. Elle est notre invitée. À tout de suite.
Europe Matin. matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h15 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invitée ce matin, l'épidémiologiste et biostatisticienne Catherine Hill.
Bienvenue et bonjour Catherine Hill.
Bonjour.
Nous sommes à un moment important et même charnière, quelques jours des fêtes avec bien sûr la crainte d'une circulation plus importante du virus. Mais tout d'abord, avons-nous vraiment, une fois, réussi à contrôler sa circulation ?
Jamais. On a laissé le virus circuler depuis le début. À la sortie du confinement, on a laissé le virus continuer à circuler doucement, puis de plus en plus vite, jusqu'à la deuxième vague.
Jamais, une fois, on a réussi à le contrôler véritablement.
Non. Le talon d'Achille, c'est que le virus circule à travers des gens qui sont asymptomatiques. Donc, c'est n'importe qui ne sait pas qu'il est contagieux, qui porte le virus. Et c'est probablement la moitié des contaminations. Donc, évidemment, si on ne cherche pas ces gens qu'on ne peut trouver qu'en les testant, le virus circule.
On va en parler parce que vous êtes constante hein, sur les opérations de dépistage. Mais l'Institut Pasteur Catherine Hill nous dit que 10% de la population a déjà rencontré le virus. Ça fait un peu plus de 6 millions de personnes en France métropolitaine. Or, selon les autorités sanitaires, on a 2 millions de cas depuis le début de l'épidémie en France. En tout cas, on les connaît. Mais alors, ce différentiel, comment l'expliquer ?
C'est exactement ça. Il y a 2 400 000 personnes qui ont été testées positives, mais il y a eu 6 500 000 personnes qui ont eu le Covid. C'est exactement comme ça que le virus circule.
Vous n'avez pas varié, je le disais depuis le début, sur la nécessité d'opérations de dépistage massif. Qu'est-ce que vous pensez, Catherine Hill, des opérations qui sont portées en ce moment par des élus locaux, par des maires, par des présidents de région ? Localisées, il est vrai, mais quand même parfois sur une population assez importante.
Malheureusement, ils ont choisi de faire des prélèvements nasopharyngés qui nécessitent du personnel formé.
Oui.
Et du coup, leur ambition est relativement modeste. Dans le meilleur des cas, au Havre, Édouard Philippe espérait tester la moitié de la population. À Charleville-Mézières, je ne sais pas, c'était plutôt un quart ou un cinquième.
Exactement, oui.
Si vous dépistez la moitié, même si vous dépistez la moitié de la population, vous n'allez pas contrôler l'épidémie parce que vous allez laisser la moitié des gens positifs continuer à circuler. Mon image, c'est vous avez des souris dans votre immeuble et vous invitez le dératiseur à s'occuper d'un étage sur deux. À la sortie, il y aura autant de souris dans l'immeuble quelques temps après.
Non, mais on comprend la force de l'image, j'allais dire. Mais pourquoi, véritablement, est-ce qu'aujourd'hui, vous comprenez pourquoi cela n'a pas été fait de la manière que vous préconisiez ? Pourquoi ? Est-ce que c'est un choix stratégique de ne pas faire ce dépistage sur toute la population française ?
Je pense que c'est une analyse de la situation. Ils avaient décidé que de toute façon, il fallait vivre avec le virus. Mais vivre avec le virus, ça veut dire aussi mourir avec le virus. On a atteint quand même 59 000 morts, dont 18 000 dans les EHPAD, à peu près un tiers dans les EHPAD. Donc c'est assez monstrueux. Donc vivre avec le virus, ce n'est pas vraiment une bonne stratégie. Il y a des pays qui ont choisi de faire autrement.
Mais justement, vous parlez du nombre de morts, Catherine. On a le nombre de morts par jour du Covid. Mais quel pourcentage en EHPAD ? Est-ce que c'est pertinent de le savoir ?
30% en EHPAD.
30%, c'est une proportion quand même importante. Pourquoi, selon vous, on n'est pas arrivé à empêcher le virus d'entrer dans les EHPAD ?
Parce que ça n'était pas organisé, parce qu'on n'a pas testé le personnel qui arrivait, on n'a pas testé suffisamment les patients. On aurait pu surveiller aussi la sortie des égouts, les eaux usées à la sortie de l'EHPAD pour vérifier qu'il n'y avait pas de virus. Il y avait plein d'outils à disposition, mais ils n'ont pas vraiment été utilisés. Et il y a encore des épidémies dans les EHPAD aujourd'hui. Et alors avec les fêtes de Noël et les sorties et les rentrées, ça va continuer.
Mais il n'est pas trop tard, éventuellement, pour changer de stratégie ?
Jamais trop tard pour bien faire.
Mais vous pensez qu'ils pourraient entendre votre voix ou d'autres voix, justement, qui appellent à ces opérations-là ?
Je crois qu'on se heurte à une bureaucratie très frileuse. On se heurte à la Haute Autorité de Santé qui a décidé qu'on ne pouvait pas faire des prélèvements salivaires qui sont énormément plus faciles parce que n'importe qui peut cracher dans un tube.
Oui, mais est-ce qu'il fonctionne sur les asymptomatiques ?
Bien sûr que ça marche. Évidemment, ça marche.
Mais pourquoi les autorités de santé disent, Catherine Hill, que ce n'est pas vraiment probant alors ?
Parce qu'ils ont fait une erreur d'interprétation des données, à mon avis. Ils ont considéré que quand on trouvait du virus, quand on a fait des paires de prélèvements, un prélèvement dans le nasopharynx, un prélèvement dans la salive, chez la même personne. On a fait la PCR sur les deux prélèvements. Mm-hmm. Il y a 94% de concordance. Et dans les discordances, il y a un peu plus de cas nasopharynx positif, salive négatif que de cas salive positif, nasopharynx négatif. Ils ont considéré que quand on trouvait du virus dans la salive et pas dans le nasopharynx, c'était un faux positif de la salive. Mais ce n'est pas un faux positif de la salive, c'est que c'était un faux négatif du nasopharynx.
Mais attendez,
il y a des faux négatifs.
Et en plus, partant de ce que vous dites, cela a influencé la décision politique également.
Absolument. Absolument, bien sûr. Et les autorités ne veulent pas passer outre aux décisions de la Haute Autorité de Santé. Donc, nous avons fait un projet de dépistage massif avec des prélèvements salivaires qui sont énormément plus faciles. Le tube peut aller jusqu'aux gens. Les gens n'ont pas besoin d'aller faire la queue dans un barnum. Quelqu'un, le facteur, un travailleur
municipal, la logistique peut vous déposer
des tubes et les récupérer après. C'est beaucoup plus facile. On peut faire, après ça, avec ces tubes, on peut faire des tests groupés. Donc, on peut démultiplier les capacités de RT-PCR, qui sont le meilleur test qu'on a en magasin.
Donc, c'est faisable.
C'est faisable.
Mais c'est-à-dire, moi, un auditeur qui vous écoute depuis tout à l'heure se dit que pour ouvrir les lieux culturels, les restaurants, les bars, les cafés, il faut quand même avoir maîtrisé l'épidémie. Mais pour vous, on ne s'en donne pas les moyens?
Exactement. Exactement. On plombe l'économie d'une façon tragique à ne pas prendre le problème par le bon bout. On a confiné tout le monde. Et maintenant, on se demande si la population positive, les gens positifs vont accepter de s'isoler. Mais enfin, isoler les gens qui sont contagieux au lieu d'isoler tout le monde, c'est quand même beaucoup moins difficile. Et les gens sont prêts à comprendre. En Grande-Bretagne, on leur donne 500 livres pour s'isoler. C'est pas trop cher par rapport à retarder l'ouverture des restaurants encore pendant des mois.
Vous avez parlé tout à l'heure, on a parlé, Catherine Hill, des EHPAD. La vaccination va démarrer très bientôt, notamment et d'abord dans les EHPAD à la fin du mois de décembre. Est-ce que ça vous paraît logique et pertinent?
Oui, bien sûr. Dans la mesure où on n'est jamais arrivé à protéger les gens dans les EHPAD, le vaccin sera une extraordinairement bonne solution. Et j'ai regardé le vaccin de Pfizer, les données des autres vaccins ne sont pas sur la table, mais Pfizer, on a le dossier de la FDA, de l'administration américaine, plus un article assez long dans un journal américain, le New England Journal of Medicine. Et vraiment, ce vaccin, un, est très efficace. Deux, il a été très, très bien étudié du point de vue de la sécurité. Et avec le recul qu'on a, qui est, disons, de deux mois après la vaccination, il n'y a aucun signal grave. C'est un vaccin, effectivement, on a mal, on a un peu mal à la tête, certains ont de la fièvre, tout ça dure deux jours, et ce vaccin a l'air très très sûr. Bon. Et tous les vaccins ont des inconvénients, les événements arrive dans les deux mois. Il n'y a aucun vaccin qui a des effets
d'accord,
à Catherine, très très
donc,
long terme.
Donc, je pense notamment au professeur Eric Coe, mais qui a varié de discours. Au début, il nous disait qu'il était assez, et je mets entre guillemets, alarmiste sur les effets indésirables. Puis il a dit qu'il a lu cette même littérature que vous, et que finalement, compte tenu de ces données scientifiques, bon, voilà, il n'y a pas raison de s'inquiéter plus qu'un autre vaccin. Mais il y a une hypothèse, Madame Hill, d'une mutation du virus. Ce sont des craintes qui parviennent du Royaume-Uni. Est-ce que cette hypothèse peut venir, si elle est confirmée, affaiblir l'efficacité de ce vaccin?
Alors ça, j'y connais absolument rien. Mais à première vue, c'est quand même un vaccin qui mute très peu. C'est ce qu'ont dit tous les spécialistes. Donc je ne serais pas très inquiète. Et en plus, vu le mécanisme du vaccin qui vous conduit à produire des anticorps, il n'y a pas de raison, c'est quelque chose qui est à la surface du virus.
Très bien.
Ça ne va pas changer.
Ça ne va pas changer, c'est ce qui est dit hier. Non. On entendait encore Axel Kahn qui précisait la même chose que vous. Le vaccin, Catherine Hill, même si ce n'est pas la panacée contre l'épidémie, est-ce que ce n'est pas finalement le seul horizon face à cette épidémie, selon vous?
Oui, mais c'est un horizon quand même assez à long terme. Donc, si on continue avec 400 morts par jour, ça va quand même être une hécatombe d'ici à ce qu'on soit arrivé à vacciner suffisamment de la population pour que le virus s'arrête de circuler. Donc, je pense qu'il faut faire les deux. Il faudrait faire un dépistage de masse tout en commençant à vacciner. Pour l'instant, on n'a pas le vaccin. On attend la décision de l'Agence européenne
du médicament,
qui a l'air de prendre son temps.
Faut voir. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Elle en prend trop?
Non, mais les dossiers sont monstrueux. Et donc, et ces gens-là n'aiment pas être bousculés. Ils ne veulent pas prendre des risques. Donc, ils doivent être en train d'étudier, vous savez, des dossiers d'autorisation sur le marché.
À vous entendre, tout le monde sort le parapluie par rapport aux risques judiciaires aussi.
Voilà. Bon. Et ça, c'est un petit peu dommage. Les Anglais ont été plus vite. Et ils ont raison.
Ils ont raison.
Oui. Oui, bien sûr.
Mais vous entendez, Madame Hill, certains, les responsables politiques qui ont défilé à ce micro avant vous, nous disent « Oui, mais nous, attention, on passe par l'Europe, c'est l'Agence européenne du médicament, alors que le Royaume-Uni, c'est une agence qui est la leur, c'est très différent. »
Non, ils ont pris une décision, c'est Boris Johnson qui a décidé de se lancer. Et je pense qu'il a, il a raison, mais il faut du courage politique, il faut assumer les conséquences.
On en manque
et
un
nous,
peu, alors.
Oh là là. Et nous, on va avoir l'Agence du médicament, la Haute Autorité de Santé, le comité des machins des vaccinations, etc. Ça va être des usines
à gaz. Oui, mais si on n'avait pas cela, Madame Hill, compte tenu de la défiance dans notre pays, le pays de Pasteur par rapport au vaccin, justement, est-ce que cela ne pourrait pas inverser la tendance et montrer qu'il y a une confiance? S'il y a un long processus, justement, de... Non,
non, les longs processus peuvent conduire à des erreurs aussi. Donc, franchement, il faut peser le pour et le contre. Et quand même,
et y aller.
Le contre, c'est 400 morts par jour, ouais. Dont un tiers dans les EHPAD, et beaucoup de personnes âgées hors EHPAD.
Ça a l'air donc, de vous... C'est un scandale pour vous?
Oui, absolument. Mais oui, on nous a dit on va protéger les personnes âgées. C'était un fiasco colossal. Les personnes fragiles.
Pourquoi on ne vous entend pas davantage, Madame Hill? Je vais dire pourquoi les autorités sanitaires ne vous écoutent pas davantage, vous et d'autres, mais vous en particulier, je le disais, sur les dépistages massifs et d'autres, vous n'avez pas varié de discours. Est-ce que vous avez davantage de contacts aujourd'hui? Est-ce que vous arrivez à les convaincre?
Visiblement non. Absolument non. Ben, je pense que le conseil scientifique a fait une analyse complètement différente de la situation. Assez confuse d'ailleurs, faut dire. Déconfinez-vous, autoconfinez-vous... le ministère, pareil. Allez vous faire tester, n'allez pas vous faire tester. Je ne suis pas entendue, mais ce n'est pas grave, je continue.
Vous continuez. Pour conclure, vous parlez du conseil scientifique. Selon les informations d'Europe 1, on a beaucoup parlé de cette étude sur les foyers de contamination. On a quelques informations, celle du professeur Fontané. Je vous lis ceci. Selon cette étude, la fréquentation des bars, des restaurants et des salles de sport multiplie les risques d'infection. C'est ce qui serait dit dans ce rapport. Cependant, une partie de l'étude a été menée pendant le confinement.
C'est une étude déclarative, si j'ai bien compris. On a demandé aux gens ce qu'ils faisaient. Je ne sais pas exactement si on leur a demandé quand ils faisaient ce qu'ils racontent et quand ils ont été contaminés. Donc, je ne sais pas si on peut tirer quoi que ce soit de ce travail. De toute façon, on ne saura jamais combien de gens se sont contaminés dans les transports en commun. Et l'histoire des foyers a été une vaste blague. Parce que trois cas qui ont un lien entre eux en moins de 7 jours, c'est très facile à trouver si c'est dans une famille, c'est très facile à trouver si c'est dans une entreprise, et c'est impossible à trouver si c'est dans les transports en commun. Donc là où on a trouvé les foyers, c'est là où on pouvait les reconnaître, mais il y en a eu plein d'autres qu'on n'a pas reconnus, donc ça n'a aucun intérêt.
Aucun
en fait.
Intérêt à vous entendre. Aucun dans tous intérêt. Les cas, merci pour ce discours franc, Catherine Hill, épidémiologiste et biostatisticienne également. Bonne journée à vous. Vous souriez parce que ce n'est pas évident à dire, c'est cela. On est arrivé. Merci, bonne
ça
journée à vous.
Ça fait long sur une carte de visite quand même.
mais je ne dis jamais. C'est pour ça que j'ai adopté épidémiologiste. Encore, personne ne savait ce que ça voulait dire.
Mais Madame Hill, ce serait bien qu'il y ait des biostatisticiens aussi dans le conseil scientifique, qu'il y ait une plus grande diversité peut-être.
C'est juste. Hein? Si, il y a Simon Cauchemès, mais c'est un modélisateur.
C'est un modélisateur, voilà. Simon
Cauchemès. Alors, les modélisateurs.
Excellent, très clair toujours en plus quand
ah
il
bon.
Est.
Mais alors, vous savez ce qu'un très bon statisticien américain disait des modèles. Il disait tous les modèles sont faux, mais il y en a qui sont utiles. C'est ça les modèles.
Merci Catherine à vous, Madame Hill.
Et Sonia Mabrouk, merci beaucoup à toutes les deux. 8h28 sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
L'info, la météo et le docteur Jimmy Mohamed, notre santé dans quelques secondes. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h31 sur Europe 1, un nouveau point sur l'info avec Hélène Zélani.
Une exclusivité ce matin sur Europe 1, les conclusions de l'étude très attendue de l'Institut Pasteur menée par le professeur Fontanet. 25 000 personnes qui ont contracté le virus interrogées. Résultat, les deux tiers des contaminations se font à la maison, en général via le conjoint, en deuxième position à l'extérieur via la famille, puis entre collègues sur le lieu de travail. Les premières vaccinations prévues pour la fin du mois, la France attend la livraison d'1 600 000 doses. Verdict d'un procès pour l'histoire, de 4 ans de prison à la perpétuité pour les attentats de janvier 2015. Perpétuité pour l'un des 3 absents, probablement mort en Syrie, le principal accusé Ali Riza Polat, écope de 30 ans de prison, il fait appel. Le foot, le PSG vainqueur de Lorient 2-0 remonte à la 2e place du classement de Ligue 1 derrière Lille. Et puis aux États-Unis, la ville d'Atlantic City met aux enchères le droit d'appuyer sur un bouton pour faire imploser un ancien casino de Donald Trump. L'argent reviendra à une œuvre caritative.
Merci beaucoup Hélène Zélani. 8h32 sur Europe 1, Laurent Cabrol avec nous pour la météo.
Un petit rappel pour vous dire que près de la Manche, les éclaircies seront là. Vous dire que sur le Midi-Pyrénées, le Poitou-Charentes et la vallée de la Loire, il fera presque beau. Et vous dire que dans les autres régions, là où l'humidité est très présente, eh bien, nous aurons une petite amélioration. En revanche, revanche, l'amélioration ne sera pas de mise sur la région Languedoc et Delta du Rhône et Cévennes, puisque vous le savez, il y a de très fortes pluies. Températures maximales entre 12 et 16 degrés.
Merci beaucoup Laurent Cabrol. Et tous les jours, nous retrouvons le médecin d'Europe 1 qui officie de 15h à 16h tous les jours avec Mélanie Gomez dans son rendez-vous et qui est avec nous le matin, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Alors vous allez nous proposer ce matin un moyen tout simple pour savoir si nous avons un cœur en bonne santé.
Alors oui, pour ça vous avez besoin de simplement deux choses, d'un chronomètre et d'un escalier. C'est une étude espagnole très intéressante qui s'est intéressée à des malades qui consultaient dans un service de cardiologie. On leur a demandé de faire un exercice tout simple. Monter 4 étages à une allure soutenue, sans courir évidemment, et sans s'arrêter, et de les chronométrer. Les patients qui ont monté ces 4 étages en moins d'une minute avaient de très bons examens cardiovasculaires et donc finalement avaient un cœur en bonne santé. Et au contraire, ceux qui ont dépassé 7 minutes, voire même qui ont eu 1 minute 30 avant d'atteindre ces 4 étages, on s'est rendu compte qu'ils avaient des examens cardiovasculaires de mauvaise qualité. La moralité, c'est que ce petit exercice, vous pouvez le faire tout seul, vous montez vos 4 étages, et si jamais vous montez ces escaliers, mais qu'au cours de route, vous avez une douleur à la poitrine, un essoufflement, évidemment qu'il faut consulter de façon urgente, voire même d'appeler le 15, et puis d'une façon générale, même si vous atteignez les 4 étages au bout d'une minute, mais que vous dites « ça a été difficile, je suis malgré tout essoufflé », je vous invite à consulter parce que vous avez le droit d'avoir un problème pulmonaire, cardiaque ou même tout simplement d'être désadapté, c'est-à-dire à cause du confinement, avoir un cœur un peu plus fragile. N'hésitez pas à consulter votre médecin ou le cardiologue, car il ne faut pas oublier qu'il ne faut pas attendre d'avoir des symptômes pour consulter.
Merci beaucoup Jimmy Mohamed et à tout à l'heure 15h sans rendez-vous avec Mélanie Gomez. Il est 8h34, la culture c'est essentiel. Dans un instant ce nouveau rendez-vous après 8h30, Europe 1 ouvre depuis hier son antenne à des artistes, des personnalités du monde de la culture. Si les espaces de création, d'expression artistique sont fermés, le studio de la matinale d'Europe 1 lui reste ouvert. Conseil, prescription d'artistes parce que la culture, oui, c'est essentiel. Dans une minute, nous appelons Julie Gayet et Pascal Légitimus. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h36 sur Europe 1. On a commencé hier et c'est déjà un rendez-vous jusqu'à Noël. Après 8h30, Europe 1 le revendique. La culture, c'est essentiel. Ce besoin de culture qui est le vôtre, nous y répondons en donnant la parole à des artistes tous les matins. Bonjour Julie Gayet.
Bonjour Mathieu Béliard, bonjour.
Et bonjour Pascal Légitimus.
Oui. Oui, bonjour Pascal Légitimus.
Bonjour Julie, bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Quel plaisir de vous avoir tous les deux à l'antenne avec nous ce matin. Vous jouez tous les deux le jeu du conseil, de la prescription. Et nous le disions hier, nous nous faisons le relais de cette opération. Si la culture souffre, la culture s'offre. Et vous Julie Gayet, vous avez une idée, offrir de la culture pour plus tard.
Oui, parce que je devais jouer au théâtre Antoine, des textes de Annie Cojan, Je ne serais pas arrivée là, fille mise en scène par Judith Henry, avec Judith Henry. Et en fait, le théâtre Antoine, le théâtre libre, Bobino, le point virgule, la scène libre, enfin des scènes qui ont aussi des humoristes, met en place sur www. Paris Spectacle, donc Paris avec le S devient spectacle au pluriel.fr, où on peut acheter des places, on peut les offrir, et vous avez un an pour après aller voilà, dans un de ces théâtres, voir peut-être, je ne serais pas arrivée là, si, mais aussi des jeunes humoristes, parce que la culture, c'est aussi les humoristes. Tu vois, Pascal, je parle...
oui, entre autres, bien sûr, les humoristes, et puis ceux qui évoquent les drames aussi, parce que c'est vrai que c'est important qu'il y ait à la fois des drames pour savoir ce qui s'est passé et ressentir des émotions, évidemment le rire pour s'égayer.
Et puis il y a un côté, Julie Gayet, il y a un côté lumière au bout du tunnel. Acheter des places de concert, des places de théâtre, des places pour un spectacle, du spectacle vivant, c'est aussi croire justement cette réouverture prochaine.
Oui, oui, et cette carte permet aussi d'aller au Grand Rex, Folies Bergères, Rond-Point, Olympia, Européen et l'Olympia. Et alors moi je pense beaucoup aux musiciens qui sont très touchés, on le sait, ce qu'on sait moins... c'est que là, SACEM récolte ses droits beaucoup dans les lieux publics, c'est-à-dire les bars, les restaurants, les boutiques, et que là, c'est 40% de recettes en moins pour la SACEM, donc pour les musiciens. Voilà, donc c'est vrai, retournons après voir les musiciens sur scène et voir des spectacles.
Et offrons des spectacles. Offrons dans une semaine le réveillon, offrons des spectacles pour plus tard. Pascal Légitimus, même question, un conseil, une proposition, on se réconforte avec les classiques. C'est un grand classique, je crois, que vous proposez à Julie Gayet et aux auditeurs d'Europe 1 ce matin.
Oui, effectivement, je propose un grand classique du cinéma qu'on diffuse souvent pour les fêtes. C'est un film vintage de Noël de Frank Capra, de 1946 qui s'appelle en anglais The Wonderful Life et en français La vie est belle, à ne pas confondre avec le film de Benigni. Et en fait, c'est l'histoire d'un ange gardien qui, pour gagner ses ailes, doit montrer au héros ce que la vie aurait été s'il n'avait pas existé. En fait, la morale de ce film, c'est qu'un homme qui a des amis, des vrais, n'est pas un raté. Et c'est un film très positif. Et il y a une correspondance avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on est tous, voilà, on a le moral dans les chaussettes, comme on dit, métaphoriquement. Et on a besoin maintenant de choses positives. Il faut éviter la peur et le stress. Et c'est vrai que ce film montre qu'il faut être positif, qu'il faut croire en l'avenir. Et c'est vrai que Julie Gayet, qui est une créatrice, qui est la productrice aussi, c'est une fille qui est entreprenante. Donc, il faut être entreprenant. Et je pense aussi, petite parenthèse, aux circassiens, les gens du cirque qui souffrent beaucoup. Et voilà, allez au cirque plus tard. Voilà, vous aurez l'occasion.
Franck Capra, La vie est belle.
Qu'est-ce que vous voulez, Madeleine? Dites-moi ce que vous voulez. Vous voulez la lune, peut-être? Vous n'avez qu'à la demander. Je l'attraperai au lasso et je vous la descendrai. C'est une magnifique idée. Je vais vous donner la lune, Madeleine.
Quand je l'aurai, qu'est-ce que j'en ferai?
Vous l'avalerez tout entière, et elle se dissoudra dans vos veines. Et l'on verra briller des rayons de lune dans votre chevelure, sur vos doigts, et vous serez scintillant. Hé
là, c'est madame!
Trouvez une autre danseuse, mon vieux, ça vaudra mieux.
Non, c'est
madame! Le côté rassurant du classique, c'est la Madeleine. Alors excusez-moi les anglicismes, c'est très feel-good, très cocooning. On a envie de se mettre sur un canapé et de regarder ces vieux films. Alors, il faut soutenir le spectacle vivant, mais c'est vrai qu'à la télé, on est toujours rassuré par un Louis de Funès ou un Papy fait de la résistance. Pour les plus jeunes, Pascal Légitimus, j'ai découvert que Les Trois Frères avaient débarqué sur Netflix. Là aussi, il y a un côté Madeleine.
Oui, effectivement, on s'est dit, ben voilà, Netflix, c'est un peu le média moderne. Donc, on a permis à ce que ce film soit diffusé sur Netflix, parce qu'effectivement, les gens sont chez eux. Donc, voilà, ils ont un film positif avec trois mecs en galère, mais qui s'en sortent plus ou moins. Mais en tout cas, ça montre un peu un reflet de la société des années de 80.
Julie Gayet.
Un film culte, je dis.
Ah oui.
C'est gentil,
ah,
merci. Oui. C'est grâce au public, évidemment.
Évidemment, il est toujours, ça marche encore. Hein. Pour l'avoir vu récemment, je peux vous dire que ça marche encore. Alors, simplement, puisqu'on parle du contexte dans le milieu, dans le monde de la culture, je voudrais vous faire écouter à tous les deux ce petit extrait sonore. Tom Cruise, l'immense Tom Cruise en tournage pour Mission Impossible 7 en Grande-Bretagne, qui n'a pas apprécié, mais alors pas du tout, de voir deux membres de l'équipe qui ne respectaient pas les gestes barrières pendant le tournage. Écoutez cet extrait. Un coup de gueule monumental. Ils font des films à Hollywood pour nous parce qu'ils croient en nous et en ce que nous faisons. Je passe mes nuits au téléphone avec tous ces putains de studios, les compagnies d'assurance, les producteurs. Nous créons des milliers d'emplois. Ils les insultent. Je ne veux plus jamais voir ça. Jamais. Est-ce que, alors, sans être dans la situation de Tom Cruise ce matin, est-ce que vous arrivez à travailler tous les deux en ce moment, à créer?
Alors moi, j'ai beaucoup de chance.
Je t'en prie.
Oui, pardon, parce que j'étais en tournage de C'est quoi ce papy avec Chantal là-dessous, et qu'on a pu tourner. Et ensuite, pour le deuxième confinement, finalement, les tournages, on a pu continuer. Et donc, c'est vrai que je n'ai pas senti, évidemment, ce confinement de la même manière. J'ai enchaîné avec une série pour TF1 Netflix, ce nouveau média, comme tu dis, Pascal, avec Thomas Sisley. Voilà, donc j'ai eu cette chance. Et tous les techniciens, alors vraiment, font extrêmement attention aux gestes barrières. On sait combien on a beaucoup de chance de pouvoir travailler en ce moment.
Et pour le coup, je voudrais souligner aussi votre projet au théâtre. Vous l'avez évoqué déjà sur les textes de la journaliste Annick Cogent. Je ne serais pas arrivé là si ce sont des entretiens avec une trentaine de femmes inspirantes. Amélie Nothomb, Christiane Taubira, Delphine Horviller. Qu'est-ce qui m'a fait défaite marquée? Et vous jouez ce texte au théâtre Antoine, si tout va bien, au mois d'avril?
On devait le jouer là en décembre. En fait, j'ai pu tourner cette série parce que justement, on n'a pas pu jouer. Alors, comme beaucoup qui devaient être sur scène et qui ont annulé, et donc on a annulé. Ça a été vraiment, effectivement, de cœur brisé. Mais c'est pour ça que les acteurs peuvent tourner. Et c'est... Mais ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que la scène, le fait de sortir tous... Poli de Nicolas Vanier sortait en salle. Je pense que pour les enfants, c'était magnifique de pouvoir aller au cinéma là dans cette période. Donc, on est forcément un peu tous peinés. Voilà. Ça ressortira en février. Voilà.
Évidemment, comme, évidemment. Ça, c'est tout le mal qu'on vous souhaite, voilà. Évidemment, Julie Gayet. Alors, un dernier mot, et on est toujours dans la nostalgie. Julie Gayet, je ne sais pas si vous le saviez, Pascal Légitimus a connu une première carrière sur Europe 1. Et puis, alors, juste pour le plaisir, 1986-87, écoutons ce jingle.
Les incocos, les inconnus. Sur Europe 1. Les inconnus sur Europe 1.
Et Pascal Légitimus, je sais que des sketchs radio des inconnus dans les années 80 vont être édités chez Warner pour les fans.
C'est-à-dire qu'effectivement, ça a été édité une première fois en 2007 et il y a une réédition qui est prévue normalement. En fait, j'ai ressorti une vingtaine, même une quarantaine de sketchs, pour donner un peu la température de l'actualité des années 90. Et c'est vrai que pendant un an, Les Inconnus avaient une émission de radio, de 15h30 à 17h. Et on a écrit pratiquement sur un an presque 400 sketchs. Et certains personnages de nos spectacles et de la télévision sont nés à Europe 1, à la radio.
Je l'ai découvert en préparant cet échange que nous avons ce matin. Et je voulais absolument passer ce jingle réédité donc chez Warner, ces sketchs des Inconnus, saison 86-87 sur Europe 1. Merci à tous les deux, Julie Gaillet, Pascal Légitimus. Merci beaucoup.
À bientôt,
merci,
peut-être
merci,
avant.
Merci,
salut.
Merci,
et à très bientôt, j'espère. À très bientôt en salle, surtout. Nous allons le répéter, le marteler. Europe 1 le revendique. La culture, c'est essentiel. Des artistes tous les matins à 8h30 jusqu'à Noël, 8h44.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h47, ils sont là. Nicolas Canteloup avec Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et tout de suite Mathieu Béliard pour le rappel de l'actu.
Oui, bonjour Julie, bienvenue sur Europe 1. Si vous venez de nous rejoindre, l'actualité, c'est Europe 1 qui vous dévoile cette étude du professeur Arnaud Fontanet, membre du conseil scientifique, car on l'a eu en exclusivité ce rapport. On le détient, on en sait désormais plus. On sait désormais en exclu où on attrape. Entendez bien, où on attrape le plus le Covid.
Ouais.
Eh bien, c'est à votre domicile, c'est à la maison.
À la maison.
Et oui, c'est pour ça qu'on doit absolument faire attention de sortir de chez soi. Il faut absolument rester. C'est pour ça qu'on doit rester chez nous pour éviter de l'avoir, puisque c'est là qu'on l'attrape le plus. Voilà. Là, je ne sais plus trop où j'en suis, Julie.
On n'y comprend plus rien.
Je suis perdu. Et puis bon, bref, là, démerdez-vous. Et puis l'actualité, c'est toujours le couvre-feu qui est entré en vigueur.
Mm-hmm.
Et Gérald Darmanin a promis d'être sévère avec ceux qui organisent des fêtes sauvages. On a le barème des amendes. Si vous êtes réunis à plus de 7, c'est 135€ d'amende par convive. Si vous avez passé les démons de minuit, c'est 200€. Les sardines de Patrick Sébastien, 400€. Partenaire particulier, 1000€. On espère que ce sera dissuasif. Et puis, l'autre info, bien sûr.
Vous savez. Un forfait, peut-être.
Excusez-moi.
Attendez, il y a quelqu'un là.
Oui, pardon, bonjour. Cher Julien Clerc, cher Cabrol, Mamet, monsieur Billard. Feu, Madame Agostini, je sollicite explosion en vol.
On va bien mal
trouver. Quel beau bon
bon Monsieur le Président.
Allez,
pas voulu. Bon bref, je sollicite la parole en tant qu'ancien président de la République. J'ai entendu Julie Gaillet, formidable actrice, sur votre antenne. Je tenais à réagir à ses propos sur la culture. Quelle grande défenseuse de la culture. J'ai envie de lui dire bravo mon poussin, hein. En creux, qu'est-ce qu'elle lui a mis dans la gueule au gamin, hein. Si on a tous compris entre les lignes. Voilà. Bon. Sinon, je peux me permettre de passer un petit message personnel. Je peux.
Allez-y. Oh là là, allez-y.
Oui, enfin, c'est pas vous la patronne, je demande Monsieur Béliard. Monsieur Béliard, je peux.
Allez-y, je vous en prie.
Merci. Oui, quand même, il y a une demande de protocole. Oui, mon lapin. Comment marche la cafetière? Non, mais j'ai essayé de me faire un café serré et j'ai appuyé sur le bouton du milieu. Tu sais, ça fait un espèce de bruit bizarre. Ça fait. Et ça a craché du jus noir par un tuyau que j'avais pas vu. Et j'arrive pas à l'arrêter. Alors j'ai bloqué le débit avec un torchon du tiroir d'en bas. Mais elle fait quand même un drôle de bruit. Donc je peux envoyer un petit SMS ou un dépanneur éventuellement. Merci. Merci, monsieur Hollande, pour cette réaction à chaud.
On a appris que
chaud,
les torchons étaient en bas, hein, dans le tiroir du bas.
Réaction à chaud. Merci pour cette réaction à chaud. Puis le café chaud. Alors, et puis l'autre info, c'est l'exposition. L'explosion des recettes fiscales sur le tabac. 12% de plus 12% que l'an dernier. Les Français ont fumé comme des pompiers pendant le confinement. Donc on va demander son, tiens, on va demander son avis, non pas à Jimmy Mohamed, qui est suroccupé, mais au docteur assis, les bras croisés face à moi, mais au docteur Michel Simès. Docteur.
Eh oui, bonjour à tous. Eh bien, voilà, on dit aux Français de se protéger du Covid parce que ça peut faire du mal à leurs poumons. Pas de problème, ils se grillent clope sur clope en attendant. Eh bien, ça vaut bien le coup de s'emmerder à les protéger, leurs poumons. Quand on pense qu'on vit dans le pays le plus anti-vaccin au monde, et gna gna gna, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, et gna gna gna, c'est peut-être dangereux le vaccin, tout en fumant en même temps deux paquets de goudron par jour. Moi, vous savez, je serais à la place des labos Pfizer. Le vaccin, j'y mettrais la nicotine, de l'arsenic, du cyanure et de l'uranium. Là, les Français accepteraient de le prendre. Ils seraient même prêts peut-être à payer 10 balles pour se l'injecter. À vous, Julie.
Merci, docteur Simès. Allez, Jean Castex a annoncé que les premières vaccinations auraient lieu à la fin du mois de décembre. Bonjour, monsieur le Premier ministre.
Bonjour, madame Julie. Je vous remets, tout le monde est là. Monsieur Béliard, bien sûr. Madame Fanny Agostini, on ne sait pas. Et on lance un avis de recherche. Bonjour à tous les auditeurs, les reprenants de recherche.
Vous n'avez pas la culture. Hein.
Oui, c'est vrai, oui. Attendez, je parle en avis de recherche où j'ai mis mes lunettes. Moi. Et, ah, sur mon nez, voilà. Attendez, sur mon nez, je vais peut-être vite en besogne. Attendez, où est-ce que j'ai mis mon nez? Non, ça c'est le menton.
Oh non. Ça, c'est... non. Oui, bon, écoutez, vous
ça,
les retrouverez
autre chose.
Plus tard. Non,
alors...
autre chose, mais c'est quoi? Vous retrouverez.
Bon,
vos
je chercherai plus tard.
Castex.
Alors, oui, il faut que
tard.
Je trouve un support alors... pour mes lunettes.
Oui, non, mais attendez, c'est bon. Vous avez annoncé le début de la campagne de vaccination pour fin décembre. Les premières populations vaccinées seront les résidents des EHPAD. C'est bien ça? Hein?
Allô.
Oh, oh, oh.
Hello. Nez, sans nez, les lunettes ne tiennent pas. Bon, alors, oui. Et,
et
les premières... non, faisant tomber les lunettes, j'ai coupé le micro.
Oui, on s'en est aperçu.
Oui, ouais. Parce qu'il y a un interrupteur.
Oui.
Un interrupteur sur le micro qui coupe la liaison avec vous, à quelques mètres de moi.
Alors, bon, alors...
C'était quoi premiers... donc la question?
Oui, bah, les premiers
ça me permet
vaccinés...
de garder des textes ouais, pour la
non,
semaine
non, non,
prochaine.
Non, non, laissez tomber cette histoire-là. Allons, allons.
Oui. Alors,
bon,
oui.
Oui, je vous disais, pas... les premiers vaccinés seront les occupants des EHPAD,
voilà.
Les pensionnaires des
Papi
EHPAD.
Papi et mamie sont les premiers sur la liste. Ils peuvent être rassurés et, ou ils peuvent être inquiets, c'est selon. On verra comment ça tourne, cette histoire de vaccination.
Oui, enfin, a priori, il n'y a pas de danger en ce qui concerne les effets secondaires. Hein. Tous les tests se sont bien passés.
Oui, tout s'est bien passé, mais bon, on va quand même laisser quelques semaines d'avance aux Anglais. Hein, on ne sait jamais. Et puis si ça tourne mal, il vaut mieux que ça arrive à des Anglais, ils seront moins concentrés pour nous casser les noyaux au sujet du Brexit. Voilà. Et quoi qu'il en soit, n'allons pas trop vite sur les vaccins.
Oh là là, qui a... Ah bah tiens,
le voilà. Écoutez, moi je dis que ça suffit, hein, cette prudence excessive. Là, moi je veux une dose. Moi, je veux une dose tout de suite. Hein, je suis quelque part une... Si. Je suis une population à risque.
Laurent Cabrol, vous estimez être à risque, vous?
Mais oui, parce que je risque... Non, mais je risque très, très sincèrement de péter un câble, hein, à force de m'emmerder comme ça. Moi, je m'en fous des effets secondaires. Je m'en fous. Hein, je peux bien pousser un troisième téton. Si ça nous permet de sauver ces petits établissements avec des comptoirs, des bouteilles derrière, etc. Non, je trouve que c'est pas cher payé, finalement. Oui, parce que moi, je suis solidaire des patrons d'établissements.
Ah oh, bah hein, tiens, tu m'étonnes.
Je suis solidaire des clients aussi. Alors. Bon, allez-y. Est-ce que vous avez une seringue? Je vous le dis, monsieur Castex, je suis prêt à les y piquer.
Ah. Eh ben, écoutez, alors, si vous insistez, monsieur Cabrol, entendu, je vous pique avec ces premières doses que j'ai reçues aujourd'hui même. Relevez votre manche.
Ah, c'est vous qui le faites.
Non, écoutez, il faut être polyvalent, vous savez.
Oui.
Allez-y.
Qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh. Oui, parfait. Oui, bon, ça fait pas très mal. Hein, bon. Pourquoi, monsieur Castex, excusez-moi, monsieur le Premier ministre, pourquoi vous me piquez avec vos lunettes?
Ah, merde, où est-ce que j'ai mis mes seringues?
Oh non. Bon, on va vous laisser tous les deux. C'est pas gagné pour le vaccin. Hein. Allez, Michèle Roubirola, la maire de Marseille, a décidé de démissionner officiellement pour raison de santé. Elle préfère devenir première adjointe. Bonjour, Jean-Claude Gaudin.
Oui, bonjour, madame Julie, monsieur Belloyard. Écoutez, tout d'abord, je tiens, bien sûr, à adresser mes meilleurs vœux de rétablissement à la mère Michèle. J'espère qu'elle sera soignée par les meilleurs médecins, c'est-à-dire pas par elle. Hein. Oh, ben écoutez, il faut être réaliste. Vous savez qu'elle est anti-vaccin et en plus homéopathe. Donc, je ne lui souhaite pas d'être prise en charge par des gens qui partagent ses opinions.
Eh oui,
je vois
vrai.
Que M. Mohamed hoche de la tête est d'accord avec moi.
Merci Nicolas Canteloup et Julie. La revue de presse à retrouver sur Europe1.fr. Bien sûr, saluons Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demanche, les auteurs de Nicolas, bien sûr. 8h56, Philippe Vandel est avec nous. Culture Média, la matinée continue jusqu'à 11h. Bonjour Philippe.
Bonjour Mathieu. Et si Michel Rubirola n'avait pas été malade, et si Internet n'existait pas, et si Emmanuel Macron avait fait carrière dans le théâtre, ça s'appelle une uchronie. Avec des si, Marianne refait le monde. Le magazine consacre son dossier donc à ses uchronies, genre littéraire et journalistique, qui réécrit l'actualité et l'histoire. Nous sommes avec l'un des rédacteurs chefs de Marianne, Perico Legas. Au sommaire également, un cri d'alarme, celui de la SACEM, qui gère les droits d'auteur des chanteurs et des compositeurs. Perte de revenus colossale due à la crise sanitaire. Ouais,
c'est ce que nous disait Julie Gaillet tout à l'heure, parfois moins 40% même.
Exactement. Et incroyable. C'est pas un petit secteur. La culture en France, c'est davantage que l'automobile. On parle pas de trois punks à chiens qui font des spectacles une fois par mois.
Finissez la ménage.
Et puis le globetrotteur Philippe Googler qui revient sur ses plus beaux souvenirs de voyage dans son livre Des trains pas comme les autres et un documentaire inédit sur France 5. Vous en revenez pas du punk à chien.
Non mais si, j'aime beaucoup. Ça me fait rester jusqu'à 11h à l'écoute de Culture Média. Merci. Parce que vous n'avez pas donné tout le programme en plus.
Non, plein de choses.
Il va se passer plein de choses évidemment. 8h57 sur Europe 1. Je vous souhaite une très belle journée. Punk à chien ou pas. Tous. Ouais. Je vous souhaite une très belle journée à l'écoute d'Europe 1. Bien sûr, je reviens demain matin en direct dès 7h. D'ici là, le monde aura changé. On va vous le raconter.